Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut, c'est Régis. Alors avant de te laisser écouter cet épisode avec Avril et de réserver ta place pour aller le voir au Métropole, il joue chaque mardi de juin, donc allez réserver votre place, j'avais envie de te dire quelques petites choses. Alors comme d'habitude, tu peux t'abonner et mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. Ça aide vraiment à gagner en visibilité pour que plus de gens puissent découvrir le podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Humeur Humoristique et y laisser un commentaire, même si tu ne l'écoutes pas sur YouTube, ça me permet d'avoir des commentaires, d'avoir des avis sur le podcast, pouvoir améliorer tout ça, et aussi pour que plus de gens puissent découvrir le podcast. Si maintenant tu veux soutenir financièrement le podcast, tu peux le faire via Patreon et donner la somme de ton choix chaque mois, ou alors faire un don unique via Linktree. Tous les liens sont en description de l'épisode. Ça m'aide vraiment à continuer et à continuer à te proposer du contenu de qualité, ce que j'essaie de faire au maximum. Et alors ce que j'aime demander aux auditeurs, c'est de m'envoyer un message sur Instagram, donc Régis Canon Humoriste. Si tu tapes Humeur Humoristique, tu devrais me trouver également. Comme ça, je sais que tu as écouté l'épisode et c'est plus chouette pour moi de voir que c'est une personne qui a écouté plutôt qu'un chiffre dans mes statistiques sur un graphique. C'est quand même plus agréable. Pour cet épisode, je t'invite donc à me contacter sur Instagram et à m'envoyer une note sur 10 pour que je sache que tu l'as écouté. C'est en lien avec l'épisode, bah, tu vas l'entendre. Et si tu es en Belgique et que tu es curieux de voir ce que je fais moi en stand-up, je joue ce jeudi 2 juin à l'Arsène Café de Namur, le 16 juin à Los Amoual à Bruxelles, le 20 juin au Made in Bruxelles Show et le 29 juin, attention là on organise une grosse soirée pour la fin de saison du What the Fun avec 50 humoristes belges qui vont faire un passage d'une minute 30 sur scène. Ça va être la folie, il faut que tu vois ça. Bon allez, on se voit là-bas et puis bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste que j'ai découvert en allant à Paris avec un sketch sur les miroirs que j'ai adoré. Je reçois Avril. Comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Et toi ?
Ben, moi aussi, j'ai eu peur de ne pas arriver parce que j'ai fait Mons-Bruxelles en 1h45 et c'était joyeux dans la circulation. Mais donc, je suis content d'être là. Tout est installé. J'espère que le son est bon. On verra ça une fois que je vais montrer le podcast.
Surprise.
C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer.
Merci à toi d'avoir fait Mons-Bruxelles.
Ben, avec grand plaisir. J'aurais préféré que ce soit plus court, je t'avoue, pour le trajet, mais ça, c'est pas de ta faute. Est-ce que toi, t'es consommateur de podcasts ?
Non, je sais pas si ça se dit en début de podcast. Non, en fait, j'adore le format, mais c'est juste que je peux pas faire deux choses en même temps. Et les seuls moments où je pourrais écouter les podcasts, c'est dans les transports en commun. Et à chaque fois que j'ai essayé, j'ai loupé mes sorties, mes arrêts. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc les conditions pour écouter des podcasts sont rarement réunies. Mais quand c'est le cas, je me régale.
Mais qu'est-ce que t'aimes dans ce format ?
Bah, je trouve qu'il y a quand même. J'avais fait un peu. J'ai fait une sorte de formation un peu fiction audio. Et en fait, j'ai découvert un peu le format. Et c'est vrai que plus tu réduis le nombre de sens qui sont sollicités, plus ça augmente du coup l'effort d'imagination, et je trouvais ça génial de toute la liberté créatrice que tu pouvais avoir justement en te réduisant qu'au son, quoi. J'aime bien ça. Puis les voix, c'est un truc. Moi, chez. Alors, je sais pas pour parler directement, mais chez une fille par exemple, c'est la voix que. C'est un truc qui me.
Ok.
Je trouve ça hyper important, la voix, l'intonation, ce que t'en fais.
Eh ben, directement une information pour les auditrices, si vous voulez plaire à Avril directement, venez avec une belle voix suave.
Voilà, si vous avez une voix moche, ne venez même pas.
Ne venez même pas.
Vous pouvez repartir directement.
Mais d'ailleurs, avec ton ami et collègue humoriste Pierre Metzger.
Exactement.
Tu avais un podcast qui s'appelait Ouais, ouais, ouais.
Ouais, c'est ça.
qui compte 25 épisodes sortis en 2020. Est-ce que tu peux expliquer un peu le podcast pour ceux qui voudraient aller écouter?
Oui, je peux l'expliquer. C'est avec mon pote Pierre, on s'est rencontrés à mes débuts dans le stand-up et on avait envie de... C'est un format qui nous plaît tous les deux, on a envie de se tester un petit peu dans ce format discussion. Puis vu qu'on est très différents, vu qu'on a des voix différentes, des timbres différents, on s'est dit que ça matchait bien. Donc ce qu'on se faisait, c'est qu'on essayait un petit peu de se garder une ou deux infos, des faits divers, des trucs d'actualité. Et on se laissait la liberté de partir où on voulait à partir de ça. Voilà, le but, c'était pas de rester longtemps dessus. Et c'était assez génial. Moi, j'adorais ce truc. On avait même un moment où on faisait des mots aléatoires sur Google. Là, et on sortait un mot aléatoire et on devait faire 10 minutes dessus. Je suis dégoûté qu'on ait arrêté. Franchement, j'adorais ça.
Et même pourquoi vous avez arrêté d'ailleurs?
On a arrêté parce que Pierre, c'est un gros sac. Et non, en fait, Pierre, malheureusement et heureusement, il a une fille qui s'appelle Charlotte qui est hyper sympa. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis intermittent. Donc j'ai mes journées, je peux enregistrer quand je veux. Bah lui, il a un boulot pour s'occuper de sa fille, il a sa fille, donc du coup, forcément, pour trouver le temps, ça demande quand même une certaine régularité, un podcast.
Je te confirme.
C'est un hebdomadaire, tu vois, donc pour s'organiser, c'est pas toujours évident, mais on va trouver le temps. Voilà. Okay. Il va se faire virer à un moment donné et on profitera à ce moment-là.
Ah, mais on croise les doigts.
Je croise les doigts, sûr, évidemment.
Mais on enregistre aujourd'hui le lundi 16 mai à Bruxelles, parce que t'es venu faire quelques scènes chez nous. Comment s'est passée ton épopée? Parce que c'est comme ça que tu l'as appelé sur Instagram.
Oui, et sans aucune exagération. Bon, écoute, plutôt bien. Moi, j'habitais 6 mois à Bruxelles il y a 10 ans, donc je connaissais bien la ville, j'adore venir ici. Et là, le but, c'était un peu de fuir le public parisien et de découvrir un public un peu plus sympa. Finalement, j'ai eu des Parisiens partout où j'ai joué. Mais non, c'était vraiment cool. Puis j'aime bien les humoristes belges dans leur ensemble.
Et c'est la première fois que tu jouais en Belgique?
Oui.
Comment t'as trouvé le public?
Ouais, c'était super. J'ai joué au Kings le premier soir, il y avait genre 10 Français en EVG. Et en général, les EVG, c'est un enfer quand tu joues. Et ben même eux, ils étaient plus sympas. C'est-à-dire que les Belges rendent des Français plus sympas.
Quand tu traverses la frontière, t'es obligé de t'alléger un petit peu.
Il se passe un truc. Tu peux pas être aussi arrogant, tu vois. Tu dois faire profil bas et ça... Je sais pas, j'aime bien l'ensemble.
Mais donc, tu m'as dit que t'allais venir rejouer ton spectacle ici à Bruxelles, possiblement?
Possiblement.
Okay.
Pour l'instant, tant que c'est pas fait, je ne vais pas... C'est arrivé, oui. Voilà, j'aurai 30 dates. Non, je sais pas, j'espère.
Bah j'espère. Bah dédicace à Justine Tassignon qui va probablement rendre ça possible.
On l'embrasse. J'ai toujours rêvé de dire ça. On l'embrasse. Elle est super, Justine. Puis elle bosse, ouais, elle fait des trucs intéressants, je trouve, ici. Elle fait plein de trucs, je trouve ça très chouette.
Ouais, elle essaie d'amener des humoristes chez nous, de faire découvrir des talents.
Oui, et puis surtout, je trouve qu'elle a un vrai avis sur le stand-up, ce qui est pas si fréquent que ça dans les. Parfois, les décideurs et tout. Parfois, je m'étonne un peu. Il y a plein de gens qui. Enfin, tu vois, qui décident de plein de choses, et quand tu parles, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils s'intéressent vraiment au truc.
Ouais, mais elle, c'est vraiment ça, une passion, et donc...
Mais c'est génial.
Ça ressort à fond.
Quand les gens qui organisent, ils sont passionnés, ils te parlent un peu artistique et tout, c'est quand même super, quoi. De parler un peu quel texte tu vas jouer avant, quel cachet tu prends, je trouve ça plutôt cool.
Tu as, je suppose, joué un extrait de ton spectacle qui s'appelle « C'était mieux avant ».
Maintenant.
Putain, je lis. Ah, ça m'énerve.
La nuance est importante.
Mais le pire, c'est que je me suis dit, il faut que je fasse gaffe. Et en tapant, j'étais là, je vais vite. Et...
Dans tous les articles, je suis pas submergé. Mais tu sais, quand tu vas jouer en province, souvent, une petite gazette locale qui fait un truc et tout. Et partout, c'était mieux avant. Mais... Il y a...
Oui, c'est
juste réac du coup.
Mais le pire, c'est que je me suis juste dit, il faut pas que je tape, c'était mieux avant. Je le sais, tu vois. Et bien sûr, je l'ai dit.
Voilà. Tu es pardonné.
Si tu pardonnes facilement.
Oui, c'est mon héritage judéo-chrétien, j'imagine. Non, je sais pas. Une fois, j'ai joué à Avignon et c'était Christophe Avril vient jouer son spectacle. Mais d'où il y a même pas. Je sais même pas d'où Christophe peut sortir. C'est même pas dans. Je parle même pas de ce prénom. Enfin, vraiment, c'est juste. Il s'est dit n'importe quel. Personne le lit.
Je sais pas c'est quoi son prénom.
Jean-François. Non.
Donc ton spectacle, c'était mieux maintenant. De quoi parle ce spectacle?
Eh ben écoute, de moins en moins de choses, et dis ça de manière très positive. Bon alors, si tu veux aller dans le name-dropping de sujets, je parle notamment de... J'ai une petite passion pour Michel Delpech, chanteur des années 70. Je parle de nuque, je parle des guetteurs de mon quartier, je parle de mémoire cellulaire transgénérationnelle. Mais c'est pas important. Dans ma manière de... Je suis pas un humoriste à sujet, à conviction, tu vois. C'est plus, j'essaie de... prendre un truc, de l'étirer, de le rendre absurde. Donc en soi, les sujets, c'est pas... Demain, tu m'imposes 7 sujets pour mon spectacle, ça ne change pas ma vie, en fait.
Mais donc, comment tu les choisis, du coup, au final, ces sujets?
Bon, je vais chercher forcément un peu dans le perso. Tu vois, ma mère, elle m'a gonflé avec la mémoire cellulaire transgénérationnelle, parce qu'elle a un petit peu... Ouais, bah, tout vient de l'ADN, machin. Bon, bah, très bien, d'accord. Donc voilà, tout ce qui me hante un peu personnellement, je le ressors. Mais derrière, tu vois, par exemple, le truc des miroirs, dont tu parlais au début... Bon, bah ça, c'est juste une observation de 5 secondes chez le coiffeur, et puis derrière, voilà, on en fait 7 minutes, comme je suis pas particulièrement attaché. J'ai pas une passion pour les miroirs, je ne les collectionne pas encore.
J'ai entendu que pendant longtemps t'hésitais entre plusieurs idées pour un fil rouge pour le spectacle.
Ouais.
Et que finalement tu t'es dit, on s'en fout.
Ouais, alors ça, figure-toi que c'était la quête la plus longue de mon spectacle jusqu'ici. Quand j'ai commencé à écrire le spectacle, j'en voulais pas. Dire que je sortais d'une période où j'étais allé voir, je crois, 10 spectacles, putain, ça me gonflait, il y avait toujours un propos, des rappels, je parle de ça. Enfin, tu vois, l'explicite me gonfle de manière générale.
Okay.
Et donc, je voulais pas de ça pour mon spectacle, et donc je me suis dit, bah vas-y, on va faire 7 sujets, passer d'un truc à l'autre sans rien, et sans dire, il y a un peu de transition, je voulais éviter de dire ça. Et en fait, putain, les 20 premières dates chantaient que les gens étaient perdus, en fait. Ils avaient besoin d'un truc un peu pour les rassurer, tu vois. Et je me suis dit, merde, putain, ça m'a un peu saoulé. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave, faut pas être buté à un moment donné, je fais quand même ça pour les autres, tu vois. Donc j'ai mis un fil rouge, mais vu que j'avais écrit les 7 sketchs sans lien, bah du coup, fallait le trouver. Donc okay. C'était un peu artificiel, tu vois. J'étais là, bah attends, quel peut être le rapport entre la. Ah oui, attends, si je mets cette phrase, le mot fait un lien. Mais tu vois, c'était pas naturel, c'était assez forcé. Et pendant 40-45 dates, j'ai testé 10 fils rouges différents. Alors, c'est allé jusqu'à créer des confusions, tu vois. Les spectacles, je confondais les fils rouges, ça avait encore moins de sens. Je faisais des rappels sur un truc que je n'avais pas dit, donc évidemment, bah, ça marche pas du tout.
Oui.
Et en fait, la solution est venue il y a seulement un mois et demi, donc tu vois, après presque 75 dates, tu vois, le temps que ça prend du coup pour trouver des solutions. Bon. C'est un soir, je me suis dit, ça m'emmerde, j'en ai marre, j'en mets pas. Et en fait, au bout de 5 minutes, je leur ai dit comme ça, je leur ai dit, j'en ai pas, voilà, j'ai pas de fil rouge, ne vous prenez pas la. Et en fait, cette petite phrase, toute bête, elle a fait une différence. Après, j'ai senti énorme, ça les a soulagés. Tu sais, ils étaient là, genre, ok, j'ai pas d'effort de recherche à mener. Ça me détend, et en fait Yacine Bellou il fait un peu ça finalement, oui. Au début de ses sketchs,
oui,
il dit, c'est un peu comme un bad trip, si vous luttez. Et je comprenais pas trop pourquoi il faisait ça en plateau. Il y avait un côté, bah putain Yacine t'as 7 minutes, putain fais tes blagues, perds pas du temps après. Et en fait, bah voilà, enfin, Yacine il le fait, c'est que ça a du sens,
ça, oui.
Il est si fort, donc en fait je pense que il a compris ce truc de rassure-les et après tout ira mieux.
Oui, ça, dans le sens rassurer, je sais ce que je fais, c'est voulu, c'est pas.
Ouais, c'est ça.
C'est pas j'ai mal écrit mon truc et du coup ça n'a pas de sens, c'est juste c'est comme ça que je l'avais prévu. Détendez-vous, mais je crois que ça t'a détendu aussi en fait.
Ouais, de ouf, c'est vraiment, c'est perdre 30 secondes pour gagner 40 minutes quoi. Parce que tu les libères de cette pression de. Oh, tu sais, t'es tellement habitué à ce que. Tu sais, à la fin, je sais pas pour faire du name dropping, mais tu sais, un Kian Kojandi, tu sais qu'à la fin. Il va te sortir une triple toile d'araignée, là j'ai dit ça pour ça et tout avait du sens, machin. Donc tu sais, les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, oh putain, tout ça va mener quelque part et tout. Je dis, non. Juste être rigolo, c'est tout.
Mais c'est
pour l'instant, ça peut changer. Peut-être qu'au deuxième, je vais arriver, et dis donc, avec des rappels dans tous les sens, c'est possible.
C'est possible, tu ne fiches pas le spectacle.
Pff, moi je vois, j'ai l'impression d'avoir deux personnalités différentes tous les trois mois, donc non, je peux pas me permettre de dire ça.
Mais ce spectacle, tu le joues tous les mardis au théâtre Le Métropole, encore en mai et en juin.
Oui, absolument.
Quelle est la prochaine étape avec ce spectacle?
C'est en réflexion. Je sais pas trop, parce que là, sur les derniers mois au Métropole ont été un peu compliqués quand même. Mardi 20h, bon, c'est pas le meilleur créneau, mais après, c'est à moi de faire le boulot de remplir. Mais j'ai un peu de soucis de remplissage, parce que c'était un peu compliqué. Je suis en concurrence avec Koh-Lanta et la Ligue des Champions. Je crois que je ne fais pas le poids. Écoute, ces derniers mois, j'ai pas perdu d'argent, ce qui est plutôt cool déjà quand tu joues à Paris. J'en ai pas gagné non plus. Donc en gros j'ai joué pour ma visibilité, voilà, j'ai joué pour faire exister un truc, pour que les gens peut-être en parlent, viennent le voir.
Et aussi pour que le spectacle s'améliore aussi.
Exactement, ah, bien sûr, absolument, je suis assez content d'ailleurs de la manière dont je l'ai fait progresser ces derniers mois. Je suis enfin plutôt satisfait de là où il est en ce moment, mais du coup la question c'est, ça prend quand même beaucoup d'espace mental de devoir remplir, de chaque semaine être là. Parfois, tu sais, tes semaines, t'envoies à tes copains. Tu peux venir pour la 7e fois. Et ramener tes collègues. C'est chiant. T'sais, moi, j'ai l'impression que mes amis, je les saoule toutes les semaines avec ça. Donc, il y a une réflexion à mener pour la rentrée. Je commence à avoir pas mal de dates de tournée. Putain, les tournées, là, je veux dire, c'est pas pour cracher sur Paris. J'aime beaucoup Paris, mais quand tu te déplaces, il y a plus de monde. Et, ils ont moins l'habitude, donc ils sont plus chauds. Ils payent plus sur place, donc ils viennent plus tard. Enfin, moi, je fais 4 jours à Gerson en avril. Putain, mais je te jure, il y a un moment, je me suis dit, putain, mais je peux être marrant en fait. Et moi, non, mais c'est con, mais à Paris, tu vois, toutes les semaines, je me disais, bon, comment on va survivre? Alors que, tu sais, j'ai retrouvé un peu du plaisir de jouer et je me dis, bon, garder que des dates en province, ça peut être un bon plan en termes de confiance. Après, voilà, je sais pas encore si je reprends à Paris à la rentrée, c'est en réflexion.
Mais donc, si on veut venir voir ton spectacle à Paris, parce que je sais que beaucoup de gens qui écoutent le podcast sont essentiellement sur Paris.
Ah ouais?
Ouais, c'est là où il y a le plus gros pourcentage dans l'écoute, donc j'espère que ça va ramener des gens à ton spectacle. D'ailleurs, si vous allez voir le spectacle d'avril, envoyez-moi un petit message pour me dire « Hey, j'ai écouté le podcast, et j'ai pris mon ticket, ça me fera plaisir. » Parce que un des buts principaux du podcast, c'est de faire découvrir des humoristes qui me font rire.
Donc si on va voir le spectacle, c'est vraiment le truc le plus sympa qu'on peut me dire. Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, qu'ils avaient découvert Yacine Bellous, et j'étais là, vous avez découvert Yacine Bellous, mais qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années? Et je trouve ça génial, faire découvrir Yacine Bellous, tu vois, c'est par exemple, ouais. Ou un Baptiste Le Caplain. Il y a des gens qui sont allés voir son spectacle, qui m'ont fait une photo des tickets, j'étais... Ça fait trop plaisir, quoi.
C'est génial. Tu leur dis que tu prends 10% sur les places
Non. Franchement, ça serait top, mais non.
Et si, juste, si jamais il y en a qui écoutent et qui veulent venir au spectacle à Paris, moi, après tous les spectacles, je réserve une grosse table et puis on va boire un verre un peu avec ceux qui veulent rester et tout pour prolonger un peu la discussion et tout. Donc voilà, si vous venez, en tout cas, sachez que l'apéro vous attend.
Ah, bah cool.
Voilà. C'est une de mes manières de remplir. Voilà, j'attire les gens avec de l'alcool.
À fond. Petite parenthèse par rapport à ce spectacle, moi j'adore ton affiche. Ça m'a éclaté ce truc parce qu'en fait t'as pris ton ancienne affiche et tu as remis une photo plus récente de toi parce que t'avais changé physiquement et t'as remis une photo en noir et blanc sur une affiche en couleur et moi j'adore le principe. En fait je trouvais que ça t'allait bien, je trouvais ça drôle, j'aime bien le concept quoi.
Bah merci, ça me fait plaisir, tu sais que ça m'a coûté une blinde. Parce qu'en fait vraiment c'était pas l'idée de base. Moi j'avais une idée d'affiche, j'ai payé un shooting, photographe, ma pote graphiste, faut quand même payer même si c'est ma pote et tout. Donc j'ai tout fait bien, et puis elle m'a envoyé le résultat final, et puis j'ai vu, je suis mais non. Et vraiment, il y a un truc de physique, genre, mais non, mais ça, j'ai pas envie de ça, quoi. Et donc du coup, vu que tout le monde me disait, pour la blague, en fait, voilà, c'est principalement que mes cheveux ont beaucoup poussé depuis les deux vagues Covid et tout, et les gens me disaient, bah vas-y, faudrait que tu colles ton ancienne tête sur la nouvelle affiche, et je l'ai fait vraiment pour déconner, et putain, j'ai vu le résultat, ça m'a méga plu. Et parfois, s'il se passe des trucs comme ça, tu dis, bah... Je vais suivre mon instinct et pas les 500 balles. Mmh. Et franchement, j'en suis très content. C'est rare que je dise ça dans mes trucs, tu vois. J'en suis très content.
Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que je trouve que l'affiche est drôle en soi. Il y a un truc déjà drôle dans l'affiche. Donc déjà, moi, ça me dit, hey, il a l'air marrant. Tu vois, je trouve juste la personne qui se dit, hey, j'ai mis une photo de moi noir et blanc sur un truc couleur. C'est déjà, tu te dis, bah la personne ne se prend pas pour un king. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ou alors, je me prends tellement pour un roi ou un truc comme ça que je mets une photo ancienne pour faire ressortir la noblesse. Non, je pense que...
Non, c'était un peu... Oh, j'ai changé. Hop, je mets un autre truc. C'est tranquille. C'est une affiche.
Je peux l'updater à vie.
Oui, c'est ça.
Toute ma vie, je peux juste changer ma tête sur les affiches. Et ça, c'est génial. J'ai peut-être trouvé un concept.
C'est trop marrant parce que tu vas avoir un corps jeune mais un visage vieillissant sur la photo.
Dorian Gray.
C'est ça.
Même, je vais faire une affiche collector où je vais faire tout le fond noir et blanc et la tête en couleur. On va faire un truc inversé.
Ça peut être sympa.
Le marketing.
Ça m'a donné envie d'aller voir le spectacle, en tout cas, personnellement.
Ouh, merci beaucoup.
Est-ce que tu as des projets en cours que je ne connaîtrais pas et que tu peux mentionner?
Ouais, bah déjà j'aimerais bien reprendre le podcast Les Ouais 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 avec Pierre. On est en train de réfléchir à une manière de le reprendre.
Okay.
Et surtout, alors bon, vu que tu m'as stalké apparemment, tu dois connaître, j'ai fait une série de 4 vidéos qui s'appelait Entretien avec un concept. C'est un truc que j'avais bidouillé, c'était au mois de novembre 2020, c'était en pleine seconde vague, j'étais chez mes parents, je me faisais mais horriblement chier et j'ai bricolé un truc. Donc Entretien avec un concept, l'idée c'est que j'interview un concept, donc jouer les deux personnages. J'étais en Ardèche, j'avais un vieux portable, pas de matos, mais rien, tu vois, donc c'était vraiment de la bricole de chez bricole. Et malgré ce bricolage, j'ai eu plutôt des bons retours. Alors le format était extrêmement, tu vois, je fais des trucs de 10 minutes, bon bah, moi j'adore les formats longs comme ça et tout, mais c'est pas vraiment adapté à ce que les réseaux attendent aujourd'hui. Donc là, l'idée en gros serait de reprendre ça, de le faire en format plutôt 3-4, plus court, de le faire dans de bonnes conditions, et de faire jouer les concepts par quelqu'un d'autre. Je pense pas être forcément très bon comédien, mais j'adore le personnage du présentateur.
Okay,
donc ça, je veux le garder. Et en foutant des guests à la place du concept, bah, ça me permet déjà de faire participer d'autres gens. Les gens que j'aime bien, j'ai envie de les faire jouer, donc ça me permet de faire ça. C'est plus facile pour nous en termes de montage, j'ai pas besoin de faire les deux persos, et je pense que ça jouera plus facilement. Et voilà, pourquoi pas aussi profiter un peu de leur communauté pour étaler un peu le truc. Donc voilà, l'idée serait de faire Entretien avec un concept, mis à jour, 8 nouveaux concepts, et bien réalisé.
J'ai hâte de voir ça.
Moi aussi. J'espère que ça va se faire. Moi j'ai eu beaucoup de talent pour commencer des trucs, puis les trouver pas bons et d'arrêter, alors que ça pouvait être cool. Donc voilà, j'espère aller au bout.
Mais d'après ce que j'ai suivi, t'as un talent pour commencer les trucs, les arrêter pendant un moment et les reprendre après et que ça marche bien.
Ouais, ouais, ça m'a fait ça pour plein de trucs. C'est ouais, vraiment. C'est. J'ai besoin de. Quand je finis un truc, j'ai une phase, c'est nul à chier, qui dure extrêmement longtemps. Mais le temps, quand même, tu vois, je suis pas complètement fermé parce qu'au bout d'un moment, je le relis, je me dis, mais non, attends, mais merde, putain, c'est bien, c'est pas mal.
Moi, j'ai ça presque à chaque fois que j'écris des sketchs.
Ouais.
Le premier truc, le premier volet que j'écris, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'écris ça? C'est vraiment de la merde. Et souvent, je laisse tomber ça pendant longtemps. Et de temps en temps, je me dis, bah, je vais aller revoir toutes mes notes, voir s'il n'y a pas quelque chose. Et là, je fais, mais c'est marrant ça, il y a un truc sympa.
Mais grave.
Et je suis là, mais pourquoi je trouvais que c'était de la merde? Et les principaux sketchs que j'ai, c'est des trucs que je me suis dit en premier lieu, C'est vraiment la merde, je sais pas pourquoi je parle de ça. Il y a pas de vanne. Et en fait, si.
Mais ouais, non seulement tu redécouvres des textes écrits que t'es bon, mais en plus, en évoluant, ton jeu évolue et tu peux rendre encore plus drôle des idées qui, tu vois, t'arrivais pas à rendre drôle avant, quoi. Moi, je fais ça très souvent, ce que tu dis. Avec le Love Steady Crew, la troupe, j'ai cru, du coup, bah, je dois avoir 108 minutes sur mon disque dur. Ouais. Et donc, du coup, de temps en temps, je piochais, je suis putain, mais c'est vachement bien ça. On va sortir ça. Enfin, c'est vachement bien. Non, c'est un peu le mec qui s'auto-touche, tu sais, genre, il va dans son drap, il va putain, mais c'était vachement bien écrit.
Après, ça peut être.
En tout cas, c'est utilisable.
Voilà.
Ouais, même cool, si c'est quoi. Pas du texte, au moins un angle, tu vois. Genre, mais cet angle était bon. Et aujourd'hui, je saurais mieux l'écrire.
Et ben donc, comme on est revenu un petit peu sur ton actualité, dans le podcast, moi, ce que j'aime, c'est remonter le temps avec mon invité. Donc, on va revenir au tout début. Mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé ton lieu et ta date de naissance pour ta future page Wikipédia.
Ah ouais, la vache, c'est vraiment au tout début. Je suis né le 26 décembre 1991, au jour de l'éclatement de l'URSS. Donc voilà.
Okay.
Est-ce que ma naissance symbolise le monde nouveau et moderne? Je ne sais pas.
Dites-moi en commentaire.
Dites-le, je suis né. Ah, c'est mon MMO technique, c'est simple, c'est démission de Gorbatchev et quelques heures plus tard, du coup, je nais, enfin quelques heures le lendemain. Je suis né à Cagnes-sur-Mer. Voilà, Cagnes-sur-Mer, c'est à côté de Cannes. Voilà, ils ont été malins, ils ont fait Cannes et Cagnes juste à côté. Donc c'est ouais, sud-est. Mes parents sont du sud-est. Donc.
Est-ce que enfant, t'étais déjà quelqu'un de drôle?
Alors je dirais même pas que je le suis aujourd'hui. Donc, mais en tout cas, par rapport à ce que j'entends de mes amis et tout, pas du tout. C'est venu extrêmement tard. La première fois qu'on m'a dit t'es marrant, je pense que j'avais. Bon, je pense que c'était peut-être troisième année d'école de commerce, donc bien 20 ans quoi. C'était non, extrêmement tard.
Et est-ce que tes parents et ton entourage sont des gens drôles?
Malgré eux. Plutôt très drôles, mais malgré eux. Tu sais, j'ai deux sœurs, grande sœur et mère, très drôles de manière tu sais, maladroite, genre qui disent des. Enfin, tu vois, genre. On a vu une voiture, c'est la Ford Galaxy, tu vois, c'est une Ford Galaxy. Et un jour, il y a des amis de mes parents qui viennent et font putain, c'était génial, on est allé au Futuroscope, on a vu les planètes, on a vu la galaxie. Ma mère, vraiment, hyper sérieuse, mais putain, mais pourquoi la galaxie est au Futuroscope? Enfin, tu vois, elle était persuadée que quelqu'un avait amené la voiture. Là, et tu vois, c'est que des trucs comme ça, tu fais putain, mais c'est hyper marrant.
Okay.
Et mon père, il fait des blagues, mais c'est, voilà, c'est le bon vivant qui a de faire des blagues, qui aujourd'hui serait condamné à peu près dans tous les plateaux et tout, mais moi, je trouve ça marrant. Il fait beaucoup marrer, mon père.
Mais qui reprenait des phrases des inconnus, si j'ai bien.
Oh la vache, t'as vraiment poussé tes recherches. Ouais, mon père, beaucoup, ouais, le est-ce que tu baises, c'était. Non, mon père, grand fan des inconnus.
Ok. Mais toi pas?
Maintenant, si, mais en fait, il y avait pas de. Mes parents ont toujours énormément travaillé, donc il y avait déjà très peu de partage culturel, et puis encore moins de l'humour. Moi, franchement, à part peut-être de Gad Elmaleh, il y a une époque quand même. T'es dans quelle année?
Moi je suis 93, donc 93.
Ouais, à peu près la même génération. Tu sais, c'était une époque où bah, tu regardais L'autre c'est moi, on en parlait, tu regardais le DVD. Et puis moi, je sais à peu près tout ce que j'ai consommé en humour jusqu'à ma majorité, quoi. C'était ni une passion, ni même pas un hobby, je regardais rien du tout. Et c'est vraiment sur le tard que j'ai commencé à tout découvrir.
Ok, donc bah, c'était ma question suivante, c'était est-ce que tu regardais des spectacles d'humour et tout ça, est-ce que vous alliez voir des spectacles?
Non, non, franchement, je viens du sud-est, mais très vite, quand j'étais petit, on a emménagé en Ardèche. L'Ardèche, magnifique département, seul département de France sans gare ni autoroute. Enfin, tu vois, donc on est quand même sur un degré de solitude. Mais alors, depuis, je tiens quand même à dire ça pour l'Ardèche, grosse offre culturelle en Ardèche, voilà. Il y a beaucoup d'assos qui se bougent vachement et c'est vachement cool. Mais non, on n'allait rien voir. Moi, le seul truc humoristique que je regardais, et j'y repensais que plus tard et tout, c'est que je regardais tous les Jim Carrey en cassette.
Ok, oui.
Les Ventura, attends, je me rappelle, Jared m'avait traumatisé. Il y a des scènes traumatisantes pour un enfant là-dedans. La blague du coton-tige géant, je pense, c'est mon plus gros fou rire de mes 20 premières années. Tous les Jim Carrey. Et les Robin Williams, c'était les Flubber.
Ouais.
Trucs comme ça. C'est des trucs Dr. Patch qui finalement est extrêmement dramatique pour un enfant.
Ouais, je l'ai pas vu Dr. Patch, je crois.
Bah je vais pas spoiler, mais c'est pas drôle en fait. Tu vois, j'ai revu il y a pas longtemps, je me dis, mais pourquoi je me marrais? C'est absolument tragique. Quoi. Et voilà, les Robin Williams, c'est les Jim Carrey. Mais pas de spectacle, les films.
Ok. Mais il y a aussi le film Les Visiteurs, ou c'est après?
C'est des films que j'ai forcément regardé quand j'étais petit, mais sans m'intéresser, sans accrocher. Mais par contre, encore une fois, quand plus tard, 20 ans, j'ai commencé à. Tu vois, j'ai regardé Le Dîner de Con, Les Visiteurs, Les Bronzés font du ski, c'était de la peur. Et c'est là vraiment que je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Mais j'ai vraiment très peu de souvenirs humoristiques avant mes 20 ans, je pense.
Pourquoi des films de Jim Carrey en particulier t'ont marqué? Qu'est-ce que t'aimes chez lui?
Je sais pas, je saurais pas dire. Mais en fait, alors c'est une analyse de maintenant, tu vois, parce que c'est pas l'analyse d'avant, mais il y a quelque chose de tellement enfantin. Tu sais, dans son jeu, et je pense que c'est pas une coïncidence si quand j'étais enfant, c'est le seul qui m'a marqué, parce qu'il tu sais, il nous parlait directement. Robin Williams et Jim Carrey, ils ont ce point commun. Mm-hmm. C'est qu'en tant qu'enfant, tu comprends tout ce qu'ils font. Même si tu comprends pas les blagues, il y a tellement de générosité dans le. il joue comme un enfant, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment, et je pense que c'est pas pour rien que je les ai retenus, quoi. C'est, je trouve ça passionnant de les voir aujourd'hui. Je trouve hyper inspirant. J'espère que Jim va pas se suicider.
J'espère.
Ouais.
Il y a des risques.
Ouais, quand tu vois, t'as vu Jim et Andy?
Oui.
Putain, ça, waouh.
C'est à la fois très flippant pour lui, mais...
Ouais, mais c'est fabuleux d'avoir de l'excès. Je suis pas un pro Netflix, mais juste pour Jim et Andy, j'ai envie de garder mon abonnement.
Et est-ce que, enfant, tout ça, le métier de comédien ou d'humoriste, ça t'attirait? Donc humoriste, je suppose que non, si tu en consommais pas.
Ah non, mais vraiment, moi j'étais... je vais pas partir dans des définitions, des nomenclatures médicales et tout, mais je sais pas si j'étais sur le spectre autistique ou on était pas loin. Moi, enfant, c'était... Je parlais à personne, mais vraiment personne. Moi, je détestais les adultes parce qu'ils me considéraient pas comme un de leurs égaux, comme leur égal, et je détestais les enfants parce que j'ai trouvé bête. Donc du coup, j'étais vraiment tout seul, je regardais beaucoup le sol, je parlais à personne. Moi, je vais te dire, ma famille a une toute petite maison de vacances dans l'arrière-pays niçois. Et en fait, c'est un village où tous les 15 août, il y a les fêtes du village. Tu vois, c'est le 15 août de chaque année, 15 août naissance de Napoléon, on l'embrasse. J'aime bien faire ça. Et donc, tous les ans, semaine du 15 août, on y allait en famille et tout, et c'est un village, il y a 4 habitants l'hiver et 200 l'été, parce que c'est les mêmes familles qui sont là depuis 10 générations, et c'est les mêmes familles qui sont là tous les étés, au 15 août et tout. Et moi, enfin, il y a la plupart des gosses, je me rappelle très bien, ils m'ont dit, mais c'est la première fois que tu viens. J'avais 18-19 ans, ça faisait 18-19 ans que je venais, le village fait 30 mètres carrés, et ça, enfin tu vois,
okay.
Moi je me cachais chez moi, enfin il y a vraiment ce truc où ils étaient tous potes, en se voyant, tu vois, tous les 15 août, et moi c'était nouveau, ben non, ça fait 20 ans que je suis là en fait.
Okay, ouais.
Donc c'était, non, c'était très peu de communication, aucune blague, rien. J'étais gênant, moi j'étais vraiment gênant.
Comment tu as switché, qu'est-ce qui a changé?
Je sais, bon, forcément en grandissant, il y a un moment donné où tu es un peu mieux dans ta peau, tu prends un peu confiance, tu t'ouvres, mais bon, il y avait un truc, c'est que j'avais de l'avance à l'école, mm-hmm. J'ai sauté de classe et je suis né en fin d'année et j'étais très petit pour mon âge,
okay.
Donc ça crée un écart quand même qui était assez gigantesque avec les autres, donc c'était pas d'égal à égal, tu vois, j'ai jamais été en même primaire, collège, lycée, c'était pas, j'étais avec des amis potentiels, tu vois, j'étais un peu le. C'est pas pareil, et donc il y a. Au fur et à mesure qu'en grandissant, tu rattrapes l'écart. Tu sais, 20 et 10, c'est pas pareil que 40 et 30, tu vois. Mm-hmm. Et au fur et à mesure que l'écart s'est réduit, où j'étais un peu l'égal des autres, là, j'ai pu commencer un petit peu à m'ouvrir, à parler et tout, mais tant que j'étais complètement à part, enfin, il y avait pas de... Je dis, il y avait pas de communication, quoi.
Ok. Ouais, parce que maintenant, t'es très à l'aise, tu discutes. Dire qu'on se connaît pas spécialement, il n'y a pas de soucis pour discuter tout ça, je vois.
Ouais, alors...
C'est marrant, je veux dire, je vois l'évolution, quoi.
Ouais, non, il y en a une grosse... Après, bon, c'est un bouton que j'enclenche quand même. C'est-à-dire que je reste quand même fondamentalement introverti. Mm-hmm. Très souvent, je fais des crises de... pas de claustrophobie sociale, mais il me faut une issue de secours.
Okay,
tu vois, juste je parle à 3 personnes, s'il n'y a pas une porte ouverte, je me sens pas bien, quoi. Donc,
okay.
C'est un bouton que j'ai appris à enclencher pour les besoins à la fois du métier, de la compagnie avec mes amis et tout. Mais voilà, ça reste... Mais je sais le faire, ce qui est cool.
Ça va, tu prends pas trop sur toi là en ce moment.
Non. Non, mais je te dis, j'ai tellement pas parlé pendant 20 ans que je rattrape le temps un peu maintenant. J'adore, enfin, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, non, là, je me sens très bien. Et puis, la fenêtre est ouverte, donc j'ai une issue de secours. Pas bon, on est au deuxième, donc c'est pas une bonne issue de secours, mais
il y a moyen, il y a des chances de s'échapper.
Et toi, tu trouves qu'il y a un changement fondamental dans ton rapport à l'humour depuis que t'es enfant?
Ben, moi, mon rapport à l'humour a toujours été plus ou moins le même, c'est que j'ai toujours utilisé l'humour soit pour me protéger, soit pour me faire des amis. Donc ouais. Moi, j'ai essayé de faire rire les gens, ah, ils rient, ah, ils m'aiment bien, ah, c'est bon, je peux traîner avec eux.
T'étais le mec qui avait des mots à l'école dans le carnet ou...
Pas beaucoup de bavardage, mais j'étais très 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 bon élève, très studieux, donc quand j'étais en classe, j'étais concentré sur le cours. Il fallait que je bosse, j'étais très stressé.
Ah ouais.
Je bossais énormément. J'ai le seul élève qui, en secondaire, donc collège-lycée pour vous, faisait une nuit blanche pour étudier pour des tests, quoi.
Ah ouais, à la vache.
Ah ouais, moi j'étais en panique. Tout ce qui était test, examen, j'étais en panique.
Ah ouais.
Le jour des examens, en fin d'année, il fallait pas venir me parler parce que j'étais en train de relire. Jusqu'à le dernier moment où on rentre en classe. Et pourtant, j'avais des très beaux points, mais j'étais angoissé avec ça. Et donc, pas du tout l'intello rejeté des autres. C'était je bosse, mais dans mon coin. Et quand je suis avec les autres, je fais des blagues, je fais je partage mon cours, je sais pas combien de gens ont
triché. Donc j'étais un des rares premiers de la classe qui avait des amis.
C'est ça.
Bravo.
Mais je laissais les gens tricher sur moi aussi, pas de soucis, je savais que j'avais les réponses, donc hop, je passe ma feuille, on copie.
Et ça se voit que t'es un mec bien, je l'ai vu de suite. À ta manière d'installer le micro, dans le mouvement, dans la gestuelle, c'est voilà. Je peux voir si une personne est une bonne personne à sa gestuelle.
Mais d'ailleurs, dédicace à Pierre qui a copié sur moi pendant toutes ces années de néerlandais. Pierre, si tu nous écoutes.
On l'embrasse.
On l'embrasse également. Mais du coup ouais, mon rapport à l'humour, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ça. J'essaie toujours de faire rire les gens pour qu'on m'aime bien. Donc généralement quand je n'arrive pas à faire rire quelqu'un, je suis en panique et là il me faut mon issue de secours aussi parce que ah ok elle ne rit pas, ok elle ne m'aime pas, ok bon mais comment je m'en vais, comment je fais. Donc mon rapport est un peu plus ou moins le même depuis toujours, je dirais, par rapport à ça. Mais niveau sociabilité, j'ai toujours du mal à parler avec des gens que je connais pas, par exemple.
Ouais,
c'est toujours une grosse difficulté. Donc souvent je vais faire des blagues et si les blagues passent bien, ça va, je me détends. Si les blagues passent pas, je me détends pas du tout. Et donc les contextes où tu peux pas faire de blagues sont très compliqués.
Ouais, je comprends. Pareil. Souvent je fais des blagues pour éviter la gênance. Tu sais, je sais que je suis gênant quand je suis pas marrant. Et du coup, c'est voilà, comme tu dis, quand tu peux pas faire de blagues, t'es là, wow.
Et est-ce qu'ils vont me trouver gênant? Est-ce qu'ils... Bah, moi c'est pas gênant, c'est plus est-ce qu'ils vont bien m'aimer que est-ce que je vais être gênant. Mais après, je pourrais être gênant aussi. Ou en tout cas avoir cette peur de l'être.
Ouais. Ah bah, on est bien des humoristes, hein. On est gênant, on s'aime pas, on a peur d'être des... Ok.
On a défini l'humoriste. Après, je sais que t'as fait pas mal de foot avant de faire du tennis parce que t'es quelqu'un de plutôt compétitif.
Trop.
Au trait. C'est toi qui le dis, c'est pas
trop,
moi.
Trop
compétitif. Est-ce que t'as gardé ce côté-là dans l'humour?
Ouais, mais j'ai su le rediriger envers moi-même.
Okay.
Dire que je suis pas. Moi, quand je vais sur un plateau, je préfère être bon et tout le monde est excellent. Que mauvais, tout le monde est vraiment très mauvais. Enfin, tu vois, parce que c'est vraiment moi, ce qui m'intéresse, c'est moi par rapport à ce que j'attends de moi, le niveau que j'espère avoir. Je suis pas compétitif, genre putain, je vais être meilleur que l'autre. Évidemment, quand je vais à un plateau, tu vois, t'as envie d'être le plus rigolo, t'as envie de te démarquer, t'as envie de choper des gens pour ton spectacle, mais c'est surtout vis-à-vis de moi. C'est ça qui était chiant au foot, tu sais, le côté, au foot, il y avait un côté, j'aime bien en vouloir qu'à moi si je me foire, tu vois.
Ouais. Je comprends. Donc si les autres sont pas bons, ça va t'énerver parce que...
Bah si les autres sont pas bons, je sais qu'au foot, quand les autres c'est pas bon, ça m'énervait. Quand j'étais pas bon, j'avais honte vis-à-vis d'eux parce que je le savais. Donc oh, c'est tellement plus simple pour moi d'être tout seul. C'est tellement... Là, je sais que hier, par exemple, j'ai fait pour moi ce qui est un mauvais passage. Putain, c'est ma faute. Ça fait du bien de se dire ça, tu vois. C'est juste moi. C'est pas le public, c'est pas d'autres gens qui ont fait des trucs. C'est moi. Tu vois, c'est plus rassurant.
Mais quand t'as fait du coup une mauvaise scène, est-ce que t'arrives à te pardonner, à te dire je ferai mieux la prochaine fois, ou ça te reste pendant un moment?
J'apprends à le gérer, et puis surtout ce qui est rassurant, c'est que mes bas sont de plus en plus hauts. Au début, quand je bidais, c'était pas. Les gens dans la salle, je pense, avaient envie de se tirer une balle. Enfin, j'avais des raisons d'y penser pendant des jours. Je me suis dit, mais j'ai gâché leur mois, quoi. Là aujourd'hui, quand je bide, je me dis juste, ils vont pas me retenir, mais ils ont pas passé un moment de merde. Tu vois, maintenant mes fours, c'est pas les fours du début. Je suis très détaché de... Je vois vraiment le beat comme un... Ça dépend de quel beat c'est. Un beat, parce que j'ai testé des choses, j'en voudrais jamais. Un beat où je fais mon sûr et je suis juste nul, ça me fait chier. Donc voilà, il y a différents types de beats.
Ouais,
si j'arrive et je me mets un défi où autour de moi, il y a que des gens qui jouent le même texte depuis 6 ans et moi, je tente un nouveau sujet et ça marche pas, franchement, je vais pas avoir honte de moi. Je vais plutôt me féliciter, je pense.
Mais est-ce que tu aimes tester?
Trop, et c'est mon problème. Déjà, j'adore cette adrénaline de la première fois... Puis en plus, quand tu. Ça fait un peu un U, je trouve, les textes. C'est-à-dire que tu les commences, t'es spontané, ça marche. Après, il y a le côté, t'es plus spontané, tu les maîtrises pas. Donc pendant 15, 20, 30 passages, t'es nul. Mm-hmm. Et après, tu le maîtrises tellement que ça redevient facile et tu peux te permettre, tu vois, de jouer de manière. Et là, ça remonte. J'ai jamais la patience d'attendre la fin de ce bas du U.
Okay, oui.
Donc je passe mon temps, dès que je commence à moins marcher sur un texte, à changer. Et c'est un problème parce que là, après 3 ans dans le stand-up, j'ai toujours pas un sûr de 5 minutes, quoi. J'ai pas un texte où je vais à un plateau, je me dis, je sais que je défonce.
C'est marrant.
C'est marrant dans le mauvais sens du terme.
Oui. C'est généralement l'inverse. Beaucoup d'humoristes ont un truc super sûr et ont du mal à tester. Moi, tester, c'est le truc le plus stressant du monde.
Ah ouais?
Ouais. C'est le truc sur lequel je dois travailler principalement, je pense. C'est que pour moi, tester, c'est très très dur. Ouais, ça me stresse juste trop. Et en fait, je le vends moins bien.
Maintenant, tu m'as raconté comment t'étudiais, je comprends.
c'est un peu ça. C'est un peu la peur de l'échec.
C'est marrant parce que t'as l'air de placer l'échec sur le fait de pas marcher, alors que tu vois, pour moi, entre jouer un truc que je maîtrise et bien marcher, est bidé sur du test, pour moi l'échec il est dans le premier. Mmh. Tu vois, l'échec il est dans me complaire dans un truc que je maîtrise. Pour moi le vrai échec, tu vois, je me sens mal si je fais ça. Et toi tu te sens mal par contre si tu testes. C'est rigolo, on ne place pas l'échec au même endroit.
Mais après je sais qu'il faut le faire, donc je fais du test quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui me stresse le plus au monde, quoi.
Ok, je comprends.
Mais je vais le faire parce que je sais qu'il faut le faire. Je vais pas faire que du sur toute ma vie en me disant bah tant pis, ça me stresse trop. Je sais qu'il faut le faire, mais quand je teste un truc, c'est horrible.
Après, c'est comme tout, je pense que t'es éduqué à ce genre de truc. Moi, j'ai commencé avec. On mettait en scène au début. C'est une troupe qui s'appelle le Love City Crew. Et le but, c'est de faire des nouveaux. Voilà, toutes les semaines, 7 minutes de full test. Moi, je fais plutôt 10 minutes. 10 minutes de full test sur des thèmes donnés par le public. Ça m'a vraiment plu, mais je trouvais que c'était pas assez loin. C'était trop. Pas simple, tu vois, parce que je cartonnais pas non plus. Okay. Mais du coup, on a poussé le truc avec Thierno. Il me faisait faire des trucs à moi. C'est que parfois, il me donnait un cinquième thème et une demi-heure avant. J'avais genre une demi-heure pour faire un 8 minutes. J'adorais ça. Moi. C'est vraiment le format un peu, tu sais, chronique. Faire des trucs un peu nouveaux à chaque fois, être à fond dans la spontanéité, c'est un truc que je rêve de faire.
Ok, pour moi c'est de la science-fiction ce que tu me dis là.
C'est vrai ?
Mais en fait, j'ai fait de l'impro, donc en soi ça devrait pas me faire peur. En impro ça allait, mais en stand-up, tu me dis dans une demi-heure tu joues et tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais en fait il faut m'amener aux urgences parce que...
Bon, chacun ses caractéristiques, tu vois. Ouais, moi, tu me dis, je joue un truc que tu connais, ça, je m'évanouis aussi. Mais... En fait, le truc, c'est que je te dis, Thierno, il a une grosse influence quand même sur la manière dont j'ai. Vu que j'ai commencé avec lui, il m'a un peu formé à ce niveau-là. Il est tellement persuadé de l'importance à la fois du personnage et de l'angle que tu vois, pour lui, les vannes viennent en dernier, j'ai récupéré ça. Donc, dans cette demi-heure, le défi, c'est pas un truc où j'écris et j'apprends par cœur et je joue. C'est vraiment, allez, on va définir avec une précision énorme qu'est-ce que je joue, quel est l'angle, et à partir de là, quand ça c'est bien défini. Derrière le reste, il n'y a plus besoin de vannes. Franchement, je crois que c'est parmi mes meilleurs passages d'ailleurs sur scène, ces moments-là.
Mais en fait, je pense que c'est le genre d'exercice qui me ferait du bien aussi, hein, pour dépasser ça. Tu vois, j'ai un blocage avec ça qu'il faut que je dépasse, quoi.
Mais au pire, sur le début, mets-le toi sur 2 minutes. Tu te dis, bah, je vais faire un plateau, je vais faire 2 minutes de blagues que je maîtrise. Après, je vais mettre ce défi-là pendant 2 minutes, et puis je rattrape tout au cas où ça bide avec 2 minutes que je maîtrise à la fin. Tu peux te mettre des trucs par. Tu sais, c'est comme les gens qui, du jour au lendemain, putain, demain je vais faire un régime, je vais faire du sport tous les matins pendant 5 ans. Ça marche pas, faut y aller petit à petit, quoi.
Mais après, encore une fois, je teste quand même. Hein, mais c'est juste que c'est panique, donc moi, pour moi, quelqu'un qui va monter sur scène une demi-heure avant, lui dit ce qu'il va faire, c'est. Waouh, bon, je suis juste impressionné, mais après, je suis impressionné par pas mal de choses que tu as faites, donc on va continuer par d'autres choses. Oui, moi j'invite que des humoristes que j'aime beaucoup. Hein, donc,
Mais la flatterie me convient très bien.
Oh, ben, je vais t'en distiller.
J'en ai besoin, c'est.
Je vais t'en distiller un petit peu au fur et à mesure du podcast.
Ah, c'est gentil. Merci. J'en ai besoin en ce moment, putain.
Alors, par contre, j'ai lu une phrase dans un article, mais j'ai pas pu lire la suite parce qu'il fallait s'abonner au journal et j'avais pas envie. Cette phrase disait: Alexandre Avril s'initie tout jeune à l'écriture sous la houlette de son professeur de français. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi?
T'as lu ça où?
Je ne sais pas, je sais plus le nom du journal, mais je ne suis pas abonné.
Ah, c'est dingue, c'est marrant. Bah ouais, ah bah putain, c'est fou. Ouais, c'est un mec qui s'appelait Francis Stumbauer, c'était mon prof de français. Moi j'ai fait un collège un peu spécialisé, donc c'était un peu particulier. Et c'était mon prof de français en 4e et 3e. Et moi j'ai longtemps nourri une haine à l'égard des profs. Parce que, bon, franchement, moi l'école c'était l'horreur. C'était vraiment. Pour moi c'était l'enfer. J'avais des très bonnes notes parce que j'avais un peu de facilité, donc voilà, je m'en sortais, mais c'était vraiment, je comprenais pas, en fait je comprenais pas pourquoi. Et parfois j'avais des carnets de sudoku, des mots croisés, des trucs comme ça, et chaque fois que je les faisais à ma table, ils venaient, ils m'engueulaient, mais je comprends pas, j'ai des bonnes notes, me faites pas chier, occupez-vous des autres et laissez-moi, et ils me laissaient pas. En fait, il y avait un côté où les règles prenaient le pas sur la logique, et ça me, et vraiment j'ai haï mes profs pendant très longtemps. Je comprenais pas pourquoi ils étaient là, en fait je comprenais pas pourquoi ils répétaient des trucs qui étaient déjà dans des livres que j'avais. Enfin, je comprenais pas l'intérêt. Mais c'est marqué là. Pourquoi tu le répètes? Dis-moi de le lire, tu vois. Enfin, j'ai vraiment nourri une haine envers les profs pendant longtemps. Et lui, c'est le premier qui m'a montré ce que c'était un vrai prof, à mon sens, tu vois. Quelqu'un qui, c'est des exercices, c'était passionnant. Il avait un exercice, c'était champ lexical. C'était, il donnait 20 mots, mais très compliqué. Mais je te donnerai les mots, mais même en tant qu'adulte, on les connaît toujours pas là.
Okay.
20 mots, 20 phrases à trous. Puis t'avais le droit au dictionnaire. Et le but, c'était le plus rapidement possible chercher les mots dans le dico, comprendre. Putain, c'était exercice, ça c'était génial. Il avait une dictée, il dictait en classe. Il disait, vous avez une semaine, vous avez le droit à toutes les lettres que vous voulez. Vous avez internet, vous avez vos parents, vous avez la bibliothèque, mais ce que vous voulez. Vous aidez de ce que vous voulez, et à la fin, vous me dites le coefficient que vous voulez pour la note. Et en fait, si je dis coef 4, une faute, c'est moins 4. Coef 1, une faute, c'est moins 1. Donc ça prenait un peu la gestion de risque, et on pouvait se faire aider de tout le monde. Et la première dictée, on était tous à moins 32, moins 35, parce qu'il utilisait que des mots tellement. Pluralité polyphonique, je sais pas comment ça se dit comme ça, enfin je sais pas comment on dit, mais tu sais qu'il y avait des. Tu sais, par exemple, le lait. Bah, lait, bah, t'as L-A-I-D, L-A-I-S, L-A-I, L-A-I-E, L-A-I-D. Et que des mots comme ça. Et on se disait, putain, c'était génial. Et ils faisaient du cas par cas, ils s'intéressaient vraiment aux élèves, ils nous faisaient vraiment. Et c'était génial. Moi, franchement, c'est le mec qui m'a fait dire, non, d'accord, ok, en fait, l'école, ça peut être vraiment super, quoi.
Okay, ouais.
Et c'est un mec qui a une importance énorme quand même dans ma vie parce que je faisais beaucoup de crises à l'époque. Je voulais pas aller en cours. Moi, chaque matin, j'essayais de trouver une manière de pas y aller. Enfin, je collais le front radiateur pour. J'ai pas mangé de la fièvre. Il y a une nuit, je me rappelle, en quatrième, c'était en plein hiver, je suis sorti dehors, je me suis aspergé d'eau froide. J'espère que je vais choper la crève, je vais pas y aller. C'était vraiment une angoisse énorme, quoi. Okay. Et en fait, un jour, je dis à ma mère, j'y vais pas. Je peux pas, c'est la rentrée scolaire, j'y vais pas. Moi j'ai supplié ma mère pendant 10 ans de faire les cours par correspondance. Okay. Je veux pas. Et elle a appelé ce prof là. Et ce prof, dans la soirée, il a écrit une vingtaine de pages. Et à ma place en fait. Il a écrit un récit en se mettant à ma place. J'ai une vingtaine, pas du tout, c'est n'importe quoi. C'est 8-9, n'importe quoi. Déjà c'est mytho. Il écrit 8-9 et en se mettant, voilà, je m'appelle Alexandre, putain, j'aime pas l'école. Qu'est-ce qu'il va me demander ce prof là? Il va encore me demander, il comprend pas que moi je veux faire autre chose. Et il s'est tellement mis à ma place, ça m'a tellement rassuré, tu vois, de. Que du coup j'y suis allé le lendemain et c'est un texte que j'ai toujours gardé, qui est hyper important, qui est sur mon blog. Je l'ai mis sur mon blog et c'est vraiment un texte fondateur. Et vu que ce qui est fondateur c'est un texte, bah c'est ça aussi le rapport à l'écriture, à la lecture qui est vu avec ça, quoi.
Ok, waouh, ça c'est du prof.
Ça, mais génial, bah, il est décédé il y a maintenant plus de 10 ans, mais c'était vraiment un. Bon, à côté il avait un peu ses zones d'ombre, hein, mais en termes de prof en tout cas, voilà, ça me fait dire, mais voilà. C'est ce qu'on attend.
Ah, c'est marrant. Parce que moi, j'étais l'inverse. J'adorais l'école.
Ah ouais?
Et pourtant, j'étais ultra stressé, hein, pour tous les tests, comme je te disais et tout. Mais moi, l'école, c'était. En fait, il y avait un cadre à suivre. Il fallait juste le suivre. Et tout allait bien. Magnifique. Incroyable.
Oh là là, putain. Oh, je sais pas. Oh, ça m'angoisse d'entendre ça.
Ah, mais moi, c'est. Mais après, j'avais les examens et tous les tests qui me stressaient énormément. Mais les cours et tout, j'aimais bien. J'aimais bien apprendre des trucs. J'aimais bien. Être en classe, j'avais un cadre, je savais ce qu'il fallait faire. En fait, j'étais bon dans un truc et donc ça me plaisait en fait. Et c'était facile, je savais ce qu'il fallait faire tous les jours en fait.
Ah ouais, c'est
vrai. Et
marrant.
Même comment t'étais avec les autres, tout était défini. Et donc j'aimais bien ça, je pense. Et vraiment, après je suis devenu prof aussi. Donc j'aime beaucoup ça. Après, les cours que j'aimais le plus, c'est les cours de langue parce que je voyais tout de suite le pourquoi on apprenait ça en fait.
C'est fou que pour les matières, il n'y ait pas. Mais juste 5 minutes. 5 minutes au début de l'année, pourquoi on apprend ça? Putain, mais c'est la phrase qui change tout, quoi. Ouais. Tout ce que j'aime aujourd'hui, c'est les matières que je détestais à l'école. C'est pas normal, quand même.
C'est pour ça que moi, je détestais les maths, parce que je n'ai jamais compris pourquoi on faisait des maths.
Alors que c'est une des rares matières dont tu te sers vraiment tout le temps.
Mais c'est ça que j'adorais avec les langues. Les langues, tout ce que tu apprends, on va te dire, mais c'est pour que tu parles cette langue.
Ouais, ah, bien, je comprends.
Et du coup, tout ce que je vais apprendre, ça va m'être utile à un moment donné? Oui, ok, c'est magnifique. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours adoré les langues. En fait, si tu apprends ce mot-là, tu vas sûrement l'utiliser dans une conversation quand tu vas être à l'étranger, quand tu vas aller en voyage. Ah, donc faut que je connaisse ce mot. Ok, nickel, c'est bon.
Je suis sûr que je t'aurais adoré un prof.
Je suis pas sûr.
mais si, mais il faut des. C'est trop important un prof. C'est trop important.
Je suis d'accord.
Trop important, j'ai pas fait la liaison. J'ai vraiment autant d'admiration pour les bons profs que de. Haine, c'est un peu gros, mais vraiment les. C'est trop important pour faire nimp, quoi.
Oui.
Pour juste. Après, bon, voilà, les mecs, j'imagine, après 20 ans d'expérience, t'as des gosses, ils sont insupportables, t'es blasé, il y a des cours, t'es en pilote automatique. Je comprends. Tu vois, je peux pas attendre d'eux qui sont intéressants H24, mais au moins juste qu'ils nous disent. Enfin, qu'ils aient l'air passionnés par ce qu'ils enseignent, quoi.
Ouais, mais.
C'est pas trop demandé.
Pour avoir donné cours en secondaire, c'est très dur de partager ta passion quand tu as juste envie de survivre à ton heure de cours.
Bien sûr. Mais bien sûr. Franchement, c'est. Avec le temps, moi aussi, je suis allé donner une ou deux formations, des trucs comme ça. J'ai largement baissé mon niveau de. Tu vois, je suis là, merde, bon, attends, peut-être que j'arrête, ils sont aussi un peu êtres humains et tout. Mais c'est pour ça que je leur demande pas la lune, juste, allez, ça va être bien, tu vois. Je suis pas là pour vous faire chier en fait. Je suis pas là pour appliquer des règles débiles. Je dis, moi, cette prof qui m'a puni 2 heures de colle parce que je faisais des sudoku, putain, je dérangeais personne, tu vois. T'es là. Allez là, occupe-toi de ceux qui ont besoin de toi.
Ouais, c'est juste appliquer des règles parce qu'il faut les appliquer sans raison. Et...
Ouais, ça c'est impossible pour moi.
Moi, tu ne m'aurais pas dérangé avec ton sudoku.
Merci, mais c'est pour ça que je suis sûr que je t'aurai droit.
Après, tu as fait quoi comme bac?
S, spémat.
Ok, et bac S, c'est...
Scientifique. Okay. Scientifique, spémat, mais je l'ai fait parce que c'était juste ce qui était le plus simple pour moi. Moi, je voulais... Tu dis, j'aimais pas l'école. c'est ce qui me demandait le moins d'efforts. Vu que j'ai un cerveau très cartésien, très logique, tout ce qui est scientifique, ça a toujours été très simple pour moi. Okay. Donc, moi, j'ai pris scientifique spé math pour que ce soit le plus simple possible. Parce que tu sais que, elle, tu fais des dissertes, tu bosses chez toi et tout, je voulais pas bosser chez moi. Moi, c'est la minute où je rentre chez moi, je veux que l'école soit terminée, tu vois.
Alors après, je sais
toi,
que
t'as fait quoi
Bah, nous, on n'a pas de... Il n'y a pas de bac en Belgique. Nous, c'est...
Ah bah ça m'étonne pas, tiens.
Non, nous, c'est un truc... t'as un enseignement qui est... T'as différents niveaux d'enseignement, que c'est général, technique ou professionnel.
Ouais.
Si tu fais professionnel, tu vas plus vers un métier. Technique, c'est un peu entre les deux. Et général, c'est t'as un peu toutes les matières.
Oh bah, on a un peu ça. Nous, ouais. C'est juste S et tout, c'est au sein de la filière générale.
Voilà, mais nous, c'est des options, en fait. Donc, les options que j'avais en dernière année, c'était latin, anglais, espagnol.
Trop bien. T'as voilà. Titimé latin, toi?
Ouais.
Moi, j'étais une grec ancien à l'école.
Ah, j'ai jamais fait.
C'était un peu les deux guerres, tu sais. Les latinistes contre les... Oh, c'était pas les gens les plus dangereux du monde.
Non. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le latin. J'ai hésité entre faire prof de latin et faire prof de langue, en fait.
Ah, trop bien. Prof de latin, c'est fou, quoi. Ça aurait été génial.
Je trouvais ça génial et en même temps, j'ai du mal à... Je crois que ce qui m'a fait choisir, c'est que j'ai du mal à expliquer pourquoi j'aime bien et quel est l'intérêt.
C'est ça, parce que c'est marrant, tu dis, moi, j'adore les langues parce qu'il y a un intérêt concret. Tu vas le parler derrière et tu dis, j'aurais bien aimé être prof de latin. À mon avis, il y a très peu de pays dans lesquels tu peux parler latin et les gens te comprennent, quoi.
C'est ça. Je crois que c'est ça qui m'a fait choisir parce que j'ai beaucoup plus de mal à expliquer pourquoi, mais je trouvais ça super cool, en fait.
Mais est-ce que c'est pas parce que c'est juste un facilitateur de langue? Une fois que tu parles latin,
oui aussi,
t'apprends vachement plus facilement toutes les autres langues latines pour le coup, mais.
Ouais, il y a de ça, mais j'aimais bien analyser la langue, retrouver l'origine des trucs. Et après, on avait plein d'histoires sur l'Antiquité et les profs aussi. Pour le coup, on avait vraiment des profs passionnés, donc passionnants. Après, je sais que t'as fait un an à Hawaï et 6 mois en Argentine, ouais. Mais je ne sais pas à quel moment et pourquoi.
Oh bon, pourquoi? C'est des échanges universitaires. Hawaï, du coup, c'était ma deuxième année d'école de commerce et Buenos Aires, c'était la quatrième. Et bon, je voulais me barrer, quoi, parce que j'ai détesté aussi l'école supérieure. Enfin, c'était pas que l'école jusqu'au bac, j'ai vraiment tout détesté. Et je suis arrivé en école de commerce, moi je voulais pas faire de prépa parce que j'aime pas travailler, j'ai pas de capacité de concentration, Donc je voulais pas faire de prépa, donc j'ai regardé les écoles post-bac, commerce, je voulais pas faire commerce, mais c'est le seul truc, quand tu sais pas ce que tu veux faire, tu fais commerce, ça t'ouvre à plein de trucs.
Okay.
Donc commerce par défaut, post-bac, école post-bac par défaut, et j'ai pris la meilleure école post-bac, donc sans prépa, et j'ai candidaté pour celle-là, donc je l'ai eu, finalement j'ai eu de la chance, sinon je sais pas ce que j'aurais fait. Et c'était pareil en fait, je suis arrivé, premier jour j'arrive à la résidence étudiante, 3 élèves, tu viens d'où? Chicago, il y a eu Moscou. Et Shanghai. Et toi, moi, j'étais France, j'étais d'Ardèche, qu'est-ce que je dis? Et j'arrivais que des... Je veux pas synthétiser, dire l'expression fils d'eux, tu vois, ça m'intéresse pas. Il y avait des gens très sympas qui sont devenus parmi mes plus proches amis. Mais t'arrives, c'est un univers, mais complètement que des parents PDG Danone, Russie, trucs comme ça. J'arrive, pour moi, c'était l'enfer. C'était à la fois les cours horribles, prolongement du lycée, alors j'espérais un changement, et des gens que je supportais encore moins, donc... En général, tu partais en échange en 3e, 4e année. Moi, je leur dis, je veux me barrer, mais le plus vite possible. Je dis à mes parents, je veux quitter l'école. Ils disent, écoute, fais un effort. Tu ne peux pas quitter toutes les écoles non plus. Et donc, 2e année, il y a une opportunité pour aller à Hawaï. Et en fait, personne ne la voulait, cette place, parce que les gens disaient, ouais, ça fait branleur sur le CV. Moi, le CV, c'est la dernière de mes préoccupations dans la vie. Je dis, attendez, excusez-moi, il y a une opportunité de partir un an sur la plage. Oui, je la prends. Vous êtes fous. Évidemment que je la prends.
Ok.
C'était génial, putain, c'était trop bien.
Mais tu as détesté ces études, mais t'as quand même fait un master pendant 5 ans. C'est à l'ISEG à Lille.
L'ISEG à Lille. En fait, première année, je voulais partir, mais vu qu'il y a eu l'opportunité de faire Hawaï en 2e année, je fais bon, j'attends au moins 2 ans. Je rentre, mes parents en rentrant en Hawaï disent laisse une chance quand même, parce que c'est très cher l'année, on te la paye, donc quand même, sois sympa, laisse une chance. Donc j'y retourne, et très vite, je choisis d'aller en Argentine en 4e année. Je me dis bon, j'attends, je reviens en 5e année, maintenant que je suis là. Autant valider le diplôme, surtout que c'est la fin, c'est mémoire, donc ça c'est trop bien parce que t'es chez toi, tu fais tes trucs. Donc voilà, donc du coup j'ai fait ces 5 ans à l'ISEG et j'ai fait un deuxième master derrière parce que je me suis passionné pour le cinéma pendant cette scolarité. Et donc je me suis dit, bon, on va refaire un an de master 2 en production cinéma. Et donc là j'ai bougé à l'ESG à Paris.
Pendant tes études à l'école de commerce, il y avait un cours de théâtre, il me semble.
Oh là là, mais mon dieu, mais tu vas vraiment, tu en sais plus que sûrement que mes parents, je pense.
Et tu ne participais pas ou tu essayais de ne pas y aller parce que t'étais trop timide pour faire du théâtre?
Ah ouais, c'est toujours pareil quand tu sais pas si c'est un manque d'ego ou une abondance d'ego, tu sais, non, je veux pas faire de la merde, je veux pas être ridicule, je vais être ridicule. En plus, moi, j'étais encore mal dans ma peau, et puis surtout j'étais encore petit, j'étais encore plus jeune et tout. Et j'étais là, non, ils vont juste se moquer, je veux pas. Et ce refus de jeu, elle, en appli. Là où, peut-être je regarde trop de films, mais là où un Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus ou un Francis Tumwer serait venu me voir après le cours, pourquoi ? C'est parce que t'as peur, c'est parce que. Bah là, la prof, c'était juste, tu veux pas jouer ? Bah zéro, tu vois, enfin c'est. Ouais. Putain, les gars, merde quoi, enfin. Ça se voit que je suis pas de mauvaise foi quoi. Merde. Non, j'ai rien fait de l'année. Vraiment, non. C'est un refus de jeu. Je me suis engueulé avec ma prof. Ça fait me poser des problèmes. Non, c'était horrible.
Ok, mais c'est fou parce que maintenant, pour t'avoir vu sur scène, tellement à l'aise quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui ressort de.
C'est vrai, tu trouves ?
Ah, bon, moi, je trouvais quand je t'ai vu à Paris, c'est juste trop à l'aise. Je fais mes trucs. Si ça marche, ça marche pas. Je m'en fous. Je suis juste drôle et à l'aise. J'étais là.
C'est gentil. Bon, après, c'est l'expérience. Hein.
Ah ouais, mais...
Pour les 50 premières scènes, j'avais la tête sur la cuvette, le vomi qui remontait dans la gorge, que je ravalais une fois sur deux. Donc voilà, c'est à force de jouer aussi, tu dédramatises et tout, mais le début, c'est. Bah, j'ai quand même eu besoin. Entre mon premier cours de théâtre du soir pour se faire des potes et le premier stand-up, il y a 3 ans quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même. Il faut un petit sas.
Ouais, bon, on va y arriver d'ailleurs.
Putain, j'enchaîne, j'anticipe tout.
Non, c'est très bien, c'est juste moi qui veux être trop dans les détails. Mais donc t'as fait l'école de commerce, ensuite t'as fait un master en production audiovisuelle et cinéma à Paris.
Ouais.
Pendant ces études-là, t'as fait un stage de fin d'études, tu travailles dans une boîte de production et dans les locaux il y a un salon avec une télé et tu te retrouves à regarder le foot dans ce salon avec le patron d'une autre boîte.
Ouais.
Vous discutez et il décide de t'engager.
Ouais.
C'est quand même assez fou.
Pas d'entretien.
Pas d'entretien, ce qui est assez plaisant.
Ouais.
Ce qui fait que de septembre 2014 à décembre 2018, tu as travaillé en tant que consultant en développement stratégique chez Roscoff.
Ouais.
Une boîte qui aide les réalisateurs de cinéma à créer leur boîte et à trouver des financements. C'est bien ça ?
Ouais, entre autres, ouais, c'était une émission qu'on avait.
Est-ce que ce job, ça t'a plu ? Et qu'est-ce que t'aimais dans ce job ?
C'était vraiment, ouais, c'était génial parce que en fait, quand tu produis des films dans le cinéma, bon, il y a des grosses boîtes qui vont sortir un, deux films par an, mais la plupart des petites boîtes, c'est très long. C'est pour développer un film, tout n'est pas retenu, donc tu sors peut-être un film tous les 3 ans. C'est hyper frustrant d'être bloqué, d'attendre. Et vu que nous, on bossait avec 10-15 boîtes de production en même temps, bah, on bossait sur 10-15 sorties, tu vois. Donc c'est comme si on était producteur. Dans le boulot qu'on faisait, on était quasiment producteur, mais avec 15 fois plus de projets. Donc c'était génial, puis tous les ans bah, j'allais à Cannes, j'allais dans les festivals, c'était, il y avait tous les avantages, parfois il y avait un festival aux arcs, un festival au ski, putain t'arrives, c'est juste, tu te mets des murs, j'ai des acteurs, des réalisateurs, tu vas skier le lendemain, c'était génial, tu vois. Et puis tu rencontres des gens hyper intéressants, je partageais mes locaux avec François-Xavier de Maison,
okay.
T'es dans les mêmes bureaux et tout, donc il y avait toute son équipe, il ramenait ses potes, il y avait tous les gens que j'adore, Eric Judor, Michel Aznavissus, j'avais passé dans le bureau, donc non, franchement c'était génial.
Ah ouais, quand même.
C'était un boulot, j'ai eu une chance de cocu, tout le monde, tous mes amis du milieu me l'enviaient. C'était mathématique, donc il y avait du Excel, donc moi j'adore parce que c'est très reposant pour moi, c'est vraiment mes pauses. Et puis non, c'était stimulant, c'était vraiment génial. Franchement, j'aurais pas pu rêver d'un meilleur premier job, mais c'était pas la scène quoi.
Ouais, la scène, qu'est-ce que t'as apporté que t'avais pas dans ce métier-là ?
Tout, franchement, c'est horrible. Hein. C'est horrible parce que je travaille avec deux personnes qui sont devenues parmi mes. On est extrêmement proches, c'est un peu ma deuxième mère, mon deuxième frère, les associés avec qui je bossais. Donc partir, c'était très compliqué, mais si je suis très honnête, ouais, la scène me remplissait bien plus que le boulot que j'avais avec eux. Ils auraient été parfaits, hein. Boulot était super, ils étaient super, mais il manquait un truc.
Mais est-ce que c'est l'adrénaline de la scène, ou c'est le côté créatif, ou c'est un tout ?
Je pense qu'on a... Bon, c'est pas pour faire de la psychologie à deux balles, mais pendant toute mon enfance, on m'a répété que... j'étais... singulier, qui avait, tu vois, que il est bizarre, il va faire des choses, enfin tu vois, il y a eu ce truc un peu de différence un peu tout le temps. Je pense que je l'ai un peu intériorisé, et dans ce boulot là ben même si j'étais bon, j'étais quand même un parmi d'autres, tu vois. Et je trouve que sur la scène, il y a un côté où même bon ou pas bon, t'es unique dans ce que tu fais, t'es vraiment le seul, et j'adore ce truc. Ce truc de me dire là il y a que moi, enfin vraiment, c'est, même si cette vanne, il y en a plein qui l'ont déjà écrite, la manière dont c'est que moi. Et cette singularité, je trouve ça génial. Moi, ça va faire là 3 ans et demi, je crois, du coup, que j'ai quitté, je sais pas si je fais le bon calcul, mais j'ai quitté ce taf-là, et franchement, alors que c'était un taf extraordinaire, je crois que j'ai pas eu une seconde, ni de regret, ni de doute, quoi. Je veux être dans ce truc de... Ouais, artistique, quoi, je veux être là-dedans.
je comprends, c'est vraiment un truc que j'adore avec le stand-up, c'est que d'ailleurs un truc que j'adore avec, par exemple avec les plateaux, c'est que tu vas voir 6 personnes qui font du stand-up, qui sont au même endroit, qui devraient être se ressembler, ouais. Tu vois. Et en fait, tu as 6 personnes complètement différentes, avec 6 personnalités, 6 trucs, 6 visions de voir le monde complètement différentes, alors que des fois, c'est 6 personnes qui peuvent se fréquenter dans la vie, qui sont au même endroit, mais qui ont juste des vies complètement différentes, ouais. Façons de voir différentes. Tu pourras avoir 6 sketchs sur le même sujet et avoir des façons de voir complètement différentes, je trouve ça génial.
Ouais, je suis d'accord, je trouve ça fabuleux.
C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans les plateaux, de voir, que t'as même encore plus que dans un spectacle, parce que là tu en vois une plus en profondeur, ouais. Là t'en vois 6 différents par exemple.
Ouais, ouais, grave.
C'est l'avantage du plateau.
Mais donc, c'est un des trucs qui m'a guidé, quand j'avais une hésitation de se lancer une stand-up au début, ce qui m'a guidé vraiment à le stand-up, c'est, je me dis, ok, c'est la discipline dans laquelle cette notion de singularité sera la plus présente, quoi. Parce que, enfin, t'es quand même censé être une extension de toi, mais tais-toi quand même.
Je sais pas c'est quoi ce bruit de roulette, je sais pas si vous l'entendez dans le micro.
Tout est normal, ne vous inquiétez pas.
Après, en 2017, donc en parallèle de ce travail, tu as commencé des cours du soir dans un premier temps au théâtre, à l'atelier Off,
ouais.
Pour être précis, tous les lundis soirs pendant 8 mois. Comment t'as vécu cette première expérience de théâtre ?
Moi, franchement, moi j'y allais sans aucun. Je dis, j'ai jamais rêvé ni d'être comédien ni d'être. Vraiment, j'y allais pour faire des copains. C'est vraiment le but. Dis, c'est un truc, je vais rencontrer du monde, ça va me sortir un peu de mon quotidien, tu vois. Enfin, avoir une petite activité. Parce qu'à Paris, pour avoir des hobbies, je fais plus de sport depuis que je suis à Paris, quoi. C'est un enfer le sport à Paris.
Okay.
Donc, du coup, il me fallait une activité du soir. Et c'était. Bon, ça n'a pas été la révélation à ce moment-là, quoi. C'était les exercices, et puis on marche, et puis à un moment donné, on s'arrête, et puis. Moi, ça me gonflait ce genre de truc. Mais voilà, on a appris des sketchs, on les répétait. À la fin de l'année, il y avait la petite représentation. Et je m'amusais bien, mais c'était pas une révolution, quoi.
Mais tu t'es quand même dirigé vers du théâtre. Ouais, parce que tu disais que le sport à Paris, c'est compliqué, donc t'aurais pas pu faire une activité.
Alors, ça venait pas de nulle part non plus, le théâtre, parce que je te dis, je dis pas que je suis drôle maintenant, mais je me suis considéré comme vraiment pas drôle et je parlais pas aux gens pendant très longtemps. Par contre, depuis notamment le retour d'Hawaï, parce que j'ai eu un an à l'abri des gens que j'aimais pas, et donc du coup bah forcément ça m'a fait bien, je suis revenu vachement plus détendu en France, et à partir de là par contre beaucoup de gens ont commencé à me dire de plus en plus souvent, mais vraiment de plus en plus souvent, ah t'es marrant, tu dois faire du théâtre, tu dois faire du, et voilà, et moi j'étais là, non mais t'es malade, jamais, moi je suis nul, je suis pas drôle machin et tout, et je pense que c'est resté un peu en tête, et à un moment donné il y avait quand même cette petite curiosité, est-ce que c'est eux, est-ce que voilà, est-ce qu'ils ont raison, mais c'est plutôt mes amis qui m'ont poussé à faire ça,
ouais. Ok, ouais. Non, c'est marrant, moi c'est aussi mes amis, ouais. qui m'ont poussé à faire du stand-up dans mode bah c'est j'ai déjà raconté plein de fois dans le podcast pour ceux qui écoutent, désolé de me répéter, mais c'est vraiment un ami qui m'a dit, ah pourquoi tu ferais pas du stand-up, et je dis mais je fais pas de blagues, moi. Si tu fais des blagues, tu fais toujours les mêmes, t'as celle-là.
Ah donc t'avais déjà ton 5 minutes.
J'avais dit, ouais, mais
tu fais toujours les mêmes, c'est terrible, je sais pas si c'est un compliment.
Mais non,
si t'en as deux, tu les répètes en permanence.
Mais c'est souvent quand tu rencontres de nouvelles personnes, tu sais, quand tu te présentes, t'as un truc de, moi je voulais faire une blague pour briser un peu la glace, et en fait j'ai souvent les mêmes trucs, mêmes vannes, et il me disait mais t'as celle-là, et en fait je me, mais en fait oui, ça c'est du stand-up. Enfin, il suffit que je le dise sur une scène dans un micro et en fait c'est du stand-up. Et après j'ai vraiment écrit super facilement au début parce que j'avais plein de trucs en fait, et il m'a débloqué un truc de, mais tu aimes le stand-up, tu regardes du stand-up, mais tu fais des blagues de stand-up, mais tu fais pas de stand-up.
Après franchement, honnêtement, pour être passé par là, est-ce que c'est pas un truc où au fond toi t'as toujours su que tu voulais en faire, mais tu te mentais, tu disais non, enfin tu vois.
Mais moi c'est plus, j'ai toujours su que je voulais en faire, mais je pensais que j'étais complètement incapable de le faire.
Ok, mais tu avais conscientisé que tu avais envie d'en faire.
Ouais, quoi. Ouais.
Ah, ok.
Moi, je regardais Jamel, je regardais Gad, je me disais, c'est le meilleur métier du monde, mais impossible de faire ça.
Ah,
ce qu'ils font là, c'est impossible. Après, le Jamel Comedy Club m'a fait me dire, ah, il y a des gens qui sont moins showben, qui sont plus normaux, je vais dire, plus calmes, plus tranquilles. Je peux m'identifier plus, mais je suis incapable d'écrire aussi bien qu'un Yacine Bellou. Et du coup, je me disais, mais c'est impossible de faire ça. Après, je me mettais une pression de, il faut que je sois un Jamel, il faut que je sois un Yacine, mais tu commences quelque part, t'es pas Yacine Bellous après la première scène, tu vois.
Ouais.
Et du coup je me disais c'est pas possible, et en fait il me disait mais t'as déjà des blagues, test, on organise une soirée, tu vas jouer devant les potes. J'ai joué devant 15 amis dans une salle en pleine lumière où tout
ça
monde,
marchait.
Ouais, c'était trop bien. À partir de là c'était fini, je devais faire du stand-up, tu vois, et j'adore ça, tu vois.
Et ta scène déclic.
Ouais, c'est ça. Mais si je pense que si cette personne m'avait pas dit mais fais ça, jamais j'aurais essayé, quoi.
Ça, parfois c'est bien d'écouter les autres.
Quand les gens sont bienveillants, écoutez-les.
Bienveillants. Je me méfie de ce mot maintenant.
Tu te méfies de ce mot? Désolé.
Non, pas du tout.
Synonyme.
Pas du tout. Je sais que tu l'as dit de manière extrêmement, mais je l'entends beaucoup à Paris.
Ouais. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je n'arrive pas à trouver un bon synonyme
Non, mais c'est le bon mot, c'est juste qu'il a, il est tellement dévoyé que...
Après ces cours de théâtre, tu commences des cours de one-man show au cours Clément.
Oui.
Dans le but, d'abord, tu le dis, de faire des copains, de rencontrer du monde.
Toujours pareil, oui. Et surtout, parce que quand même, ce que j'avais compris pendant le truc de théâtre, c'est qu'à un moment donné, j'avais bien envie d'écrire mes trucs. Pour le coup, j'ai toujours pas mal écrit, mais bon, j'ai tout jeté. Moi, très souvent, toutes les semaines, j'écrivais 3 pages. Hop, c'est nul, on supprime tout. Je pense que j'ai dû perdre des dizaines de milliers de pages dans ma vie, mais le processus d'écriture, mon prof notamment Stumbauer me l'a vachement donné, écrire à la main aussi j'aime énormément. Et donc du coup il y avait ce côté, j'ai envie d'écrire un petit peu mes textes, c'est ça qui m'a poussé au cours Clément.
Ok. Je suis désolé pour le bruit de travaux qui a commencé, je ne sais pas si ça va continuer, mais si vous l'entendez, désolé.
C'est du fond.
Ouais c'est du fond j'espère. Désolé pour le bruit mais on va faire avec.
1h40 de route pour avoir des bruits de travaux, t'es content là.
Mais un jour, à ce cours, tu fais un sketch qui marche bien, un sketch sur un prof d'université qui fait un cours sur l'impuissance masculine.
Tu vois, j'ai fait un prof.
Ouais. C'est marrant. Devant la classe, ça marche bien, et le prof te dit, bah, la semaine prochaine, on fait un show au théâtre Saint-Georges de 400 places, viens jouer ce sketch. Qu'est-ce qui a fait que t'as accepté? Parce qu'au début, bah, tu voulais pas. Et comment ça s'est passé?
Oui, bah, c'est vrai que sur les 2 ans de cours Clément, j'ai bien mis un an et quelques à sortir de ma chaise et à accepter de jouer devant les autres. C'était du refus de jeu comme en cours de théâtre à l'école.
Okay, ouais.
C'était, je vais être trop nul, c'est ridicule. Vraiment du refus de jeu. Et puis, beaucoup, c'est le moment où j'ai testé, j'ai essayé de boire avant de jouer, j'ai pris des Lexo avant de jouer. Enfin, pour moi, c'était vraiment un enfer. Mais je me faisais vraiment du mal. C'est vraiment, parfois, on se dit, on se fait du mal quand on monte sur scène. Là, c'était vraiment du masochisme. Je me mettais dans des états, enfin, je dormais pas les nuits du cours et tout ça pour pas jouer. Enfin, c'était vraiment compliqué, et donc ce jour-là où j'étais en mode fuck it et j'arrive, et c'était un sketch, alors c'est pas le plus malin que j'ai jamais écrit, mais tu vois, je mimais à un moment donné un acte sexuel et tout. Putain, moi jouer ça devant des gens, c'est un truc de dingue, et il y a une libération quand j'ai réussi à le faire. Donc quand elle m'a dit jouer dans une grande salle, j'étais terrifié, mais c'était 400 personnes, je me dis vas-y, c'est un truc à faire au moins une fois dans une vie quoi.
Ok, et comment ça s'est passé?
C'est la scène, à ce jour, j'ai jamais aussi bien marché de ma vie, je pense. Okay. Il y a un côté où bon, j'étais évidemment blanc, de la gerbe plein la gorge juste avant de monter sur scène. Et au moment donné où je rentre, là vraiment, je l'ai senti. Mais tiens, parfois on parle de déclic. Le premier pas sur scène, c'est le pied droit. Je me rappelle vraiment du premier pas. Le pied droit, et boum, tout stress disparaît. Toute peur disparaît. Et vraiment, j'étais mais dans mon jardin. C'est-à-dire que je suis entré sur scène. Je pense que le premier mot, il arrive après genre 35-40 secondes, un truc comme ça, tu vois. Et quand tu dis 35-40 secondes, c'est immense quand tu commences, c'est 10 ans, et j'étais je prenais mon temps, je dépliais ma sacoche, une phrase, un applaudissement, et c'était, je vais faire 5 minutes, j'ai fait 11 avec le même texte, et tout le temps c'était des applaudissements, des silences maîtrisés, c'était tout s'aligner, tu vois, c'était vraiment le déclic au sens déclic du terme, c'était mais évidemment,
okay,
évidemment, et je sors de la scène, tu vois, les gens qui chuchotent, c'est lui. C'était genre qui montrait tout et tout, et j'étais là, mais oh, quoi? Attends, les gens me regardent, les gens aiment bien ce que je fais, les gens. Putain, un regard un peu de. Et j'étais là, mais y a pas de meilleure sensation au monde. Terrible, parce que c'est une sensation un peu, tu sais, de. Oh, les gens m'aiment, tu vois, c'est dangereux, enfin, tu vois, c'est presque malsain comme bonheur, mais c'est un bonheur malsain, je suis sorti de là, mais je veux ce bonheur malsain pour le reste de mes jours. Soyons honnêtes, j'ai un manque d'amour à combler, un ego qu'il faut que. Et ça passera par l'amour factice de spectateur. Mais c'est pas grave, on y va. Vaut mieux un amour factice que pas d'amour du tout. Allez, on y va.
Comme la très grande majorité des stand-upers, je veux dire.
Franchement, on n'est pas originaux.
Tu te prends une vague d'amour et ça fait du bien. C'est incroyable.
Et t'as l'impression que les gens t'aiment. Et à 40 ans, tu te rends compte que t'as rien construit dans ta vie perso. Et que les gens, finalement, ne sont pas fans et qu'ils sont pas là pour toi quand t'as des problèmes. Tu te dis, mais j'ai touché, puis tu fais une dépression. Puis finalement tu trouves une femme ou un mec et tu reviens et puis après tu reprends. Moi je le sais mon parcours, je le connais à l'avance. 10 ans de carrière, une dépression et revenir sur la pointe des pieds, ouais, c'est super.
Eh bien on fait rêver tous les humoristes qui veulent commencer.
Non mais c'est une vie géniale, c'est une vie de merde en même temps quoi. Enfin c'est les deux. Après je dis ça mais tu vois des Haroun, des Thomas VDB, Haroun je connais peut-être un peu plus que Thomas VDB mais de l'extérieur il y a des gens. Verino par exemple. Virino, c'est un mec, le peu que j'ai parlé avec lui, c'est un mec tellement équilibré, il a une femme, il a des enfants, donc c'est pas vrai ce truc du cliché de l'humoriste torturé et tout. Tu peux très bien avoir une carrière normale, avoir une vie de famille épanouie, bien sûr que c'est possible, mais c'est juste que voilà. Dans mon cas personnel, j'y crois pas, j'ai trop de trucs à rattraper, tu vois, j'ai trop de tard.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je vais enchaîner avec mes questions, je ne sais pas quoi.
J'ai mis une gêne ou pas? Est-ce que j'ai mis une gêne?
Non, c'est juste que je ne sais pas quoi dire.
Est-ce que, ouais, en fait, je me suis peut-être trop livré là, tu vois.
Non, mais j'ai pas.
T'es le mec qui est en roue libre, ah, mais attends, il est en train de dire qu'il veut se buter. Pas du tout. aucune idée suicidaire, aucune, ne vous inquiétez pas.
Non, c'est juste que.
Et je trouve ça encore plus dangereux de le dire en fait. Je viens de me rendre compte que dire aux gens. Et attends,
on dirait que c'est aucune... convaincre.
J'essaie de me convaincre. Non, mais tout va bien, toi.
C'est Kurt Cobain qui chante sa chanson Je n'ai pas de fusil. Mais pourquoi tu dis que t'as pas de fusil?
Il y a une chanson, il dit ça.
La chanson, il dit Je n'ai pas de fusil. Non, il tourne l'avocat.
C'est
non,
drôle. T'en parles dans un sketch?
Non, mais je
c'est hyper drôle. T'imagines le mec, demain je pousse le truc, mais il arrive. Je n'ai pas le cachet dans le tiroir droit de ma commode. T'es d'aller vraiment dans beaucoup de détails.
Je n'ai jamais enterré ma femme avec mes enfants. Pourquoi tu parles de ça?
Je n'ai jamais voulu assassiner mon voisin qui habite au 34. Quoi? C'est beaucoup trop précis, mec.
C'est Fanny Ruel qui a cette vanne géniale avec il faut pas pousser mémé dans les orties, et elle dit mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que t'as fait?
C'est drôle.
D'où vient cette expression? Elle est géniale, cette vanne. J'adore. Fanny, on l'embrasse.
on l'embrasse. J'ai jamais rencontré Fanny personnellement, mais j'aimerais bien de ce que j'entends d'elle, tu vois, en interview, machin, et même sur le texte, je pense qu'on aurait des... des roses à partager, je pense qu'on s'entendrait bien.
Je pense. Mais elle est géniale, Fanny. Bah d'ailleurs, allez la suivre, il y a son podcast Les gens qui doutent, qui parlent de doutes. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens.
Excellent titre. Bon, d'abord de chanson, mais excellent choix de titre pour un podcast.
C'est clair.
On embrasse Anne Sylvestre.
On l'embrasse également.
On l'embrasse. Bon, je crois qu'elle est décédée, mais on l'embrasse quand même.
On l'embrasse quand même.
Parce qu'on n'est pas morophobe. Nécrophobe?
Nécrophobe, je pense.
Allez, nécrophobe.
Allez, allons-y.
Tu vois le latin? Allez. Non, grec. Mais non, grec.
Non, c'est du grec.
Ridicule.
Ridicule.
J'ai voulu te montrer que j'étais savant, mais ça n'a pas du tout marché.
Tu t'es corrigé, quand même.
C'est vrai.
Alors, après cette scène-là, donc, t'as vraiment chopé le virus de la scène, et tu décides donc de quitter ton boulot.
Oui.
Mais directement après?
Je suis sorti de là, direct, c'est comment je vais l'annoncer.
Waouh.
C'était vraiment... Il n'y a pas eu de... Oh, j'ai besoin... Non, à partir du moment où je savais que je voulais faire ça, c'était instantané. Alors, je suis quand même chié dessus parce que c'est des mecs qui avaient misé sur moi, ils m'avaient filé de job. Enfin, ils me formaient, voilà. Ils me formaient pour vraiment devenir producteur et tout. Ils avaient beaucoup investi sur moi. Donc, voilà, les quitter alors que je les aimais beaucoup, c'était compliqué. Je crois que je me demande si j'ai pas perdu 2-3 kilos la semaine après leur avoir dit.
Okay.
Il y avait quelque chose, tellement un truc, un poids à lâcher comme ça. Mais voilà, j'ai pris la décision tout de suite. Pour avoir la rupture conventionnelle, ils m'ont dit fini l'année. Donc c'est pour ça que j'ai fini l'année de juin à décembre.
Okay.
Et janvier 2019, c'est parti.
Et tu t'inscris au Labo du Paname, aux auditions publiques du Café Oscar, au Jardin Sauvage pour le plateau du Topito.
Ouais, c'est comme... trois premières scènes ouvertes.
Et comment se passent tes premières scènes ouvertes?
Mal, comme tout le monde. Non, mais la toute première, le Jardin Sauvage, j'avais prévu, on avait 3 minutes, et j'ai tellement mal jaugé mon temps que j'ai dû arrêter en étant flashé, alors j'étais même pas un tiers du texte. Et je m'en suis pas si mal sorti. C'était vraiment ma première scène et c'était Urbain qui présentait à l'époque. En fait, j'étais qu'avec des gens, je m'en suis rendu compte qu'après, il y avait Paul Mirabel, il y avait Cyrilli, Urbain, enfin je m'en suis rendu compte qu'après que j'étais avec eux. Et pour moi, bah, tu sais, t'arrives, tu connais personne, bah, tout le monde est pareil. Et je crois qu'Urbain m'avait dit ouais, franchement, c'était cool. T'es genre, je me demande s'il a pas fait une vanne en mode t'étais à peu près 10ème sur 25, un truc comme ça, je me rappelle pas très bien. Mais je me situe à peu près dans ces eaux-là. J'étais pas ridicule. C'était nul, mais j'étais pas ridicule. Et après, bon, Labo, j'ai aucun souvenir. Audition publique. Bon, bah, Café Oscar, c'est une salle, c'est quand même. Quand tu commences, c'est une des plus dures pour moi. Parce qu'il y a vraiment. T'as beaucoup de lumière dans la tête, t'es surélevé, c'est une salle en longueur. Donc, c'est une salle qui est agréable quand tu la maîtrises, mais très difficile quand tu commences. Et la quatrième, Open Mic du Love Steady Crew.
Mais, on va y arriver, justement. Donc, tu fais l'Open Mic du Love Steady Crew. Tu es repéré par Thierry Nocturne, donc ton metteur en scène actuel, mais aussi le metteur en scène de Morgan Cadignan ou encore d'Haroun, que j'ai eu dans le podcast. Allez écouter Haroun.
On l'embrasse.
Et il te demande de rejoindre la troupe dans laquelle tu vas rester pendant 2 ans. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passait au Laugh City Crew et comment tu as vécu ces 2 années? Mais donc, c'est ce que tu parlais tout à l'heure de, tu avais des sketchs de 7 minutes à préparer avec un thème imposé chaque semaine.
Ouais.
Et toi, tu faisais 11 minutes parce que t'es trop à l'aise avec le test.
Parce que j'adorais ça. Franchement, c'est mes meilleurs souvenirs. J'adorais cette troupe. J'ai vraiment adoré être dedans. J'ai adoré l'exercice. Et puis, Tierno, c'est un mec qui, il est danseur à la base. Oui. Voilà, il est danseur. Donc, il a un truc avec le corps auquel j'adhère, tu vois. Enfin, quand je revois finalement les Jim Carrey et tout, je pense que c'est ça qui m'a plu aussi dans leur truc. C'est un mec qui est extrêmement, quoi, dans la gestuelle. Et il y avait ce truc de scénographie, et ce truc qui nous faisait faire des stages clowns, il croit énormément aux clowns, c'est une espèce de un peu de pureté comique. Ça, en fait, j'ai tout de suite adhéré à sa manière de voir l'humour. Je connaissais rien à l'humour, mais j'ai quand même adhéré, et il a été très important pour moi dans ma formation, et c'était génial. Et puis dans la troupe, il y avait, en fait maintenant c'est marrant parce que dans la troupe, bah, il y a Morgane qui quand même commence à plutôt bien percer, il y avait Louis Chappé qui commence aussi à plutôt bien percer, il y avait mon pote Pierre Metzger, j'espère que ça va bientôt percer machin, Manu Bibard, enfin voilà, il y avait plein de gens finalement, sans s'en rendre compte, tu vois, j'arrivais à un endroit, moi je savais pas où je mettais les pieds, et à l'époque, les gens se souviennent plus parce que ça c'est terminé maintenant, mais à l'époque, le Study Crew, les gens voulaient y rentrer, quoi. Il y avait un côté, moi quand je disais, sur le Study Crew, les gens étaient là, quoi, tu sais, moi j'arrivais, je m'en rendais pas compte, mais c'était une troupe vraiment géniale, les guests ils venaient chaque semaine, c'était trop bien, je garde des super souvenirs.
Donc là-bas, tu fais une rencontre importante pour toi, donc c'est Pierre Metzger, donc tu l'as dit, avec qui vous avez un coup de foudre amical et artistique.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que ça a collé autant entre vous?
Je pense, alors ça paraît être cliché et baveux, mais je pense que c'est vraiment la différence, quoi. On venait de deux mondes radicalement différents, moi plutôt la famille un peu aisée, province, tu sais, mes parents plutôt médecins, donc tu sais, les médecins de province, trucs comme ça, et lui c'était vraiment la famille communiste qui l'a fait grandir. Limite, ils avaient le choix de pas aller aux Ulis, tu sais, mais Ulis c'est une banlieue. Mm-hmm. Un peu compliqué, et limite ils avaient le choix, mais c'était non, on va élever notre fils à la dure, à la prolétaire, enfin vraiment radicalement différent. Lui, il avait ramené ses potes pour l'open mic, les potes ils enlevaient leurs chaussures, ils les tapaient contre le sol au lieu d'applaudir, enfin c'était un truc, quoi. C'était l'inverse de ce à quoi j'étais habitué, et il me faisait peur, tu vois, le soir où je l'ai rencontré, et puis à la fin de mon passage, il vient me voir, il fait hey, moi j'étais terrorisé, il me fait, c'était vachement bien, et là je fais ah, et il y a eu un truc un peu de l'ordre du. Et c'est un mec que j'aime beaucoup, il est très intelligent, il a vraiment des... Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment un avis sur les choses qui, bon, parfois ridicule, je trouve, mais au moins qui est très différent sur tout. Mais c'est pas un très différent par posture. C'est juste que, voilà, il a une manière de voir le monde qui est, que je trouve, hyper intéressante. Non, c'est un mec que je trouve vraiment très intéressant, et j'aimerais bien, si je peux, en tout cas, le mettre en avant, enfin, dès que je peux, le mettre en avant, parce que je trouve qu'il a vraiment des choses à dire, il a vraiment... Il a une violence dans ses pensées que je trouve assez intéressante. Voilà, qui n'existe pas, je trouve, en ce moment.
Quand j'ai joué à Paris, tu jouais aussi au Barbès. Bah, il a fait un passage aussi qui était vraiment bon. Donc j'espère revoir sur scène.
Je t'encourage à aller voir son heure, voilà, aller voir Pierre Metzger.
Mais vous avez fait aussi un 30-30 ensemble, avec des passages où vous êtes ensemble sur scène.
Ouais.
Comment ça s'est passé?
C'était génial. Franchement, un 30-30, c'est un format que j'adore. Et puis on avait des... On avait un moment, on avait écrit des petites blagues à deux, et puis surtout on avait un roast. C'est génial, se roaster, on est nos potes et tout. Non, il y a une vraie complicité. Moi, je veux l'inclure dans tous mes futurs projets, quoi.
Tu as dit que quand tu étais enfant, donc tu ne regardais pas tout ce qui était stand-up, tu t'y connaissais pas trop. Est-ce que à partir du moment où tu as commencé, tu as rattrapé ton retard en stand-up?
Ouais, j'ai commencé à bien en bouffer. Après, moi, j'ai un problème, c'est tu vois, par exemple, je vais regarder un film que j'aime bien 30 fois, et j'aurai du mal à découvrir des nouveaux films.
Je comprends ça.
Stand-up, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que mes spectacle stand-up préféré, j'ai dû les voir vraiment 15 à 20 fois, facile. J'ai du mal à me dire, allez, on va voir un... J'ai du mal à rentrer dans des nouveaux univers. Tu vois, très souvent, je commence des trucs, je fais 10 minutes, je suis... Bon. Okay. Voilà. Et parfois, je me trompe. Hein. Je me rappelle, il y a un an et demi, j'ai essayé de voir le Ronny Cheng, Asian Dude, Roast USA, un truc comme ça. Mm-hmm. J'ai arrêté au bout de 5 minutes. Et Pierre m'a dit, mais non, ça change bien. Je m'y suis remis, et en fait, j'ai complètement adhéré. Donc. Okay. Mais j'ai du mal à... Ouais, j'essaye d'en bouffer. Je bouffe surtout les vrais spectacles à Paris. Moi, je vais voir vraiment tous les spectacles. Je vais regarder tous les copains, même les gens que j'aime moins. Je vais essayer de tout voir. Déjà, je trouve ça cool de soutenir tout le monde. Et puis, je sais pas, ça me nourrit un peu. Mais je vais tout voir. Et on est très peu à faire ça.
Ouais.
Très peu.
Moi, je sais que si je vis à Paris, je pense que je vais tellement voir de spectacles que j'oublie que je dois jouer, tu vois.
Ah ouais.
Ouais, quand je suis venu à Paris, je me suis vraiment dit, mais il y a des amis à moi qui sont venus me voir. Ils étaient jamais allés dans un comedy club. J'étais là. Mais enfin, tu es à Paris, c'est le meilleur endroit du monde pour voir du spectacle. T'as ce truc-là.
Du monde calme-nous, mais oui, c'est important. Ouais,
moi, je trouvais ça génial. T'as tellement de spectacles, tellement de trucs, de possibilités. Et en fait, ils étaient jamais allés voir du stand-up, quoi.
Après, ça peut être un problème. C'est qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement aussi au milieu des plateaux pourris. Et c'est des gens, ils y vont et ils disent plus jamais de ma vie, je vais dans un. Enfin, tu vois.
Ouais.
C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que oui, à Paris, on est bien servi quand même.
J'ai entendu une phrase qui m'a perturbé, que tu as dit avec Pierre, c'est. Que le pire épisode de South Park, c'est le meilleur du stand-up.
Ouais.
Est-ce que tu penses encore ça?
Mais oui, mais non, mais bon, South Park en termes de drôlerie, d'écriture, de. Je sais que c'est cliché de dire ça, c'est très. Mais c'est. Enfin, c'est. Y a rien de plus drôle que South Park. Je ne connais rien de plus marrant que South Park.
Ah, ok. Moi j'allais dire, y a rien de plus marrant que le stand-up.
Ah non, 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 bon, franchement, mais. Pour moi, ils ont. En fait, vu que. Enfin, ils se cachent pas du tout, mais vu que c'est des cartoons, c'est des enfantins, ils peuvent vraiment se permettre de tout dire. Ils vont tellement plus loin. Enfin, même le mec un peu limite, tu sais, l'humoriste qui va dire tout haut ce que les gens posent. Même ça, il est à des années-lumière de ce qui se passe dans South Park. Donc il y a une liberté qui est vraiment jouissive, quoi. Ils font des trucs, South Park. Cartman, il y a plus de place en fait pour aller aux toilettes chez les hommes. Qui dit bah je suis trans juste pour aller aux toilettes. Enfin, c'est un truc. Putain, mais moi en tant que mâle blanc hétéro, enfin voilà, ça me saoule un peu. Mais mâle blanc hétéro arriver faire des blagues là-dessus. Je suis dead, à moins d'être le meilleur du monde, c'est impossible. Parfois, à juste titre. Enfin, franchement, parfois, je suis très content que cette espèce, que tout le monde puisse pas arriver et dire. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment qui arrivent par méchanceté, qui tapent sur les faibles, les pauvres, et oui, c'est pas drôle. Donc parfois, c'est cool qu'il y ait cette limite, mais les South Park, ils peuvent tout faire. Tu crois pas ça? T'es pas fan de South Park? Non?
Mais j'aime bien. Je ça me fait rire, tu vois, comme les Simpsons vont me faire rire aussi, parce que je trouve ça génial, c'est créatif, c'est incroyable. Mais je ris pas autant que quand je vais voir un stand-up. Moi, le stand-up, c'est le truc qui me fait pleurer, tu vois. Il y a des spectacles que j'ai été voir, j'ai mal aux yeux, tu vois. Genre, j'étais voir Romane Frayssinet, j'étais voir Shirley Soignon cette année-ci. J'ai mal aux yeux, je pleure, quoi. Que l'épisode de South Park, je peux le regarder en souriant.
Alors, c'est vraiment l'inverse, je ne ris pas du tout au spectacle. Mais vraiment, moi, c'est très intériorisé. Blanche Gardin, je crois que c'est deux spectacles, je crois que j'ai dû rire trois fois. Okay. Mais ça reste mon humoriste préféré en France. Enfin, tu vois, c'est ouais, pas. Oui. Je fais pas de corrélation, je fais pas de. Après, c'est aussi que j'en ai vu beaucoup par écran, et c'est pas le même rapport.
Oui.
Louis C.K. Et Bill Burr, c'est peut-être les deux seuls où je ris devant mon ordi. C'est-à-dire pour me faire rire devant un ordinateur, faut y aller. Et quand j'ai eu la chance de voir Louis C.K. en live, et je retourne le voir là en juin là, à Paris, ça c'est vraiment. Pour le coup, je riais de manière incontrôlable. Il y a eu un effet de groupe qui a marché. Mais par exemple, Romane Frayssinet, que je trouve méga talentueux. Je me suis pas beaucoup marré à son spectacle. Enfin, tu vois, ça sent
okay,
pas.
Ouais. Mais moi, je ris vraiment très très fort au spectacle. Je le dis dans.
Bah, viens ou bien, putain, mais viens toutes les semaines.
Mais je dis à tous les humoristes de m'inviter parce que je fais beaucoup de bruit. Mais le problème, c'est ça. Je commence à trop le dire, donc les gens commencent à le savoir. Et le problème, c'est que des fois, je vois un truc, on m'entend pas. On se dit, ah merde, il a trouvé ça vraiment à chier.
Viens. Chaque spectateur compte en ce moment. Viens, t'es invité.
Mais ouais, moi, il y a rien qui me fait plus rire que le stand-up, quoi. Genre, Baptiste Le Caplain, que je sais que tu aimes beaucoup.
Ouais.
Ben, son spectacle Origine, je l'ai regardé dans mon salon en pleine journée et je pleure.
C'est un chef-d'œuvre Origine.
Incroyable.
Moi aussi, j'étais ému, putain, en le voyant.
Oui, mais il y a aussi ça.
Plus ému que dans le rire. Très ému.
Mais je crois que c'est ça qui me manque dans un South Park, c'est qu'il n'y a pas ce.
Mais c'est pour ça que South Park, moi, c'est la pure drôlerie. Il n'y a pas d'autre niveau.
Okay.
Quand tu vois, c'est vrai qu'un Le Caplain ou un Lutz, son dernier spectacle, là, les gens, je trouve, de merde, on va clasher d'une manière incompréhensible.
J'ai pas vu.
C'est un truc. C'est putain, t'as des niveaux d'émotion au-delà du rire, c'est voilà, c'est inégalable. Effectivement, South Park n'aura jamais ça. Okay. Mais en drôlerie, en liberté d'écriture, et par rapport à ce qu'il montre, c'est trop génial, quoi. Et puis, surtout, South Park est plus visionnaire, je trouve, que très souvent, South Park, 5 ans après, la réalité, enfin, l'épisode devient réalité, quoi.
Oui.
Stand-up, on rattrape un peu le passé, tu vois, on se moque d'un truc qui est déjà arrivé.
Ok, ouais. C'est vrai que niveau liberté d'écriture, ça, je peux te l'accorder. Que South Park est plus libre, ça c'est clair. Ils peuvent aller dans tous les trucs, mais ce qui me fait plus rire, c'est le stand-up. Il faut de tout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle en série que Friends, mais il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi.
Je trouve ça génial. Moi, je suis Ross. Je sais pas, on a tous notre personnage, toi t'es qui?
Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que je veux être Chandler, mais que je suis Ross.
mais tu sais que c'est marrant parce que, ouais, j'ai toujours dit, moi je suis Chandler et tous mes amis, non. Non, gros, t'es Ross. Oui, Ross, c'est celui qu'on n'a pas envie d'être, mais qu'on est finalement, on est content.
Oui,
il est bien, Ross.
Il est bien. Bon, après, c'est lui qui finit avec Rachel. Moi, c'est comme ça que je. Ça me rassure.
Ouais, alors, ouais, ouais.
Après, c'est... Monica est géniale.
Rachel est insupportable la première moitié de la série, et elle devient géniale la deuxième moitié. Alors, les deux premières saisons,
moi, j'ai...
le baphomètre est à 1000. Hein. Oh là là.
Moi, je les aime trop. Mais moi, c'est la série, je la finis, les derniers épisodes, puis je remets le premier. Puis
ouais.
Je...
Oh, puis, putain, tu vois le premier épisode, les looks années 90, encore mieux maintenant, putain.
J'adore. Mais j'aime trop.
Ouais, c'est bon.
Je pourrais faire un podcast juste sur Friends, mais il faut que je continue.
Vas-y.
En octobre 2019, tu lances ton spectacle, donc tous les samedis à la Petite Loge.
Ouais.
Ce spectacle, il est mis en scène par Tierno. Comment vous avez travaillé la mise en scène de ce spectacle au départ?
Ça, c'est compliqué comme question.
Comment...
Non, t'inquiète, c'est bien, ça me fait réfléchir. Parce que ça me fait revenir à il y a très longtemps. Écoute, je me rappelle pas exactement qu'on a bossé la mise en scène. En fait, il a tellement changé. Je pense que depuis sa première. Moi, j'ai commencé avec 45 minutes de test, mm-hmm. spectacle. Je pense que tu serais mort du coup.
Oui, moi, complètement. Puisque quand j'ai joué 1h15 de spectacle, ouais. J'avais testé 1h20 et j'ai retiré des trucs pour le jour où j'allais jouer.
Ouais.
C'est impossible pour moi de ne pas. Qu'il y aurait quelque chose dans le spectacle qui aurait pas été testé.
Ouais, je comprends. Pour moi, c'était encore une fois le kiff, l'adrénaline.
Ouais.
Mais en tout cas, il a changé à bien 80% depuis la première. Donc, je me rappelle plus exactement comment on bossait. Mais lui, il m'aide à comprendre ce que je dis en fait. Je sais pas si ça a du sens. Mais tu vois, par exemple, j'ai un moment où j'ai un sketch sur les guetteurs. C'est mon truc qui en général marche le mieux. Moi, j'ai des guetteurs dans mon quartier, donc ils communiquent par son. Ils sont là, ils font des bruits et tout pour se prévenir. Et il y a un soir, moi, chez moi, où je vais vers la fenêtre et de loin, je crie un son, puis ils ont réagi. Et je trouvais ça. Alors, ça s'est arrêté là dans la vraie vie, mais j'imagine un scénario où je deviens le marionnettiste, tu sais, qui dirige toute la drogue en faisant des sons à sa fenêtre. Et l'idée me faisait trop marrer dans le spectacle, tu vois. Alors, je vais pas trop gâcher le truc, mais du coup, dans le spectacle, à un moment donné, je fais croire que je suis devenu le parrain de la région Nord-Île-de-France. Et je disais, au début, j'avais écrit « Quand vient la nuit, je me terre dans l'obscurité. Et là, de ma fenêtre, je deviens marionnettiste de l'ombre. » Tu vois, je le disais comme ça. Et Tierno, c'est là où il m'aide, il me dit « Bah non, regarde, là, t'es qui, là ? T'es un marionnettiste de l'ombre. C'est un secret. C'est genre oh, « Donc, du coup, c'est « Quand vient la nuit, je me terre dans l'obscurité. » Tu vois, c'est ouais. Juste « Qu'est-ce que tu dis ?» Quitter. Du coup, forcément, et depuis que je le dis comme ça, ça marche trois fois mieux. Et c'est toutes ces phrases, non, là, voilà, pourquoi quitter, pourquoi tu le dis ? Et il m'a aidé à virer énormément de choses qui étaient en trop, à faire le tri, et ouais, c'est là-dessus que c'est cool.
Okay.
Me rendre compte de ce que je dis, c'est important. Quand on écrit, tu sais, t'as pas de. C'est idiot, en fait, c'est tellement logique ce qu'il me dit.
Okay.
Tu vois, et puis surtout, il m'aide à revenir à un truc très, très enfantin dans le bon sens du terme. Tu vois, par exemple, si je viens de faire un peu une. Je viens de faire une bêtise, tu vois, un truc comme ça, bah avant, tu vois, j'aurais pu faire. Alors que là, c'est. Mais non, marche, tu vois, genre. Tu sais, en marchant avec les pattes cartoon et tout, il y a ce truc très enfantin, très, très carré, très Williams, que je veux retrouver, que je souhaite retrouver.
Ouais, c'est marrant, c'est un peu ce qu'Haroun disait aussi de comment il a travaillé avec Tierno, puisque c'est du coup avec le même metteur en scène.
Ah oui, il a dû en parler pendant le podcast.
Ouais, c'était vachement intéressant. Mais de comment, en fait, que tout ce que tu le fais pour une raison et c'est justifié et tu y as pensé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard pour donner l'impression que, du coup, tu viens de le faire pour la première fois de ta vie, mais qu'en fait, tout est pensé, tout est réfléchi et c'est impressionnant. Je trouve ça génial. Mais Tierno, je ne sais pas s'il a déjà mis en scène quelque chose que je n'aime pas pour le moment. Donc,
surprise. Attends de voir mon spectacle.
Mais ce que j'ai vu me fait rire, en tout cas. Et ce que j'ai entendu, mais ça on va y arriver, m'a beaucoup fait rire. Mais comment est-ce que tu travailles pour écrire ? Parce que tu disais dans un podcast que tu n'as pas l'impression de faire des blagues. Tu dis des trucs très concrets, mais que le public va trouver absurde, drôle et perché. Mais donc comment tu fais pour savoir ce qui va faire rire ?
J'ai vachement changé de méthode. Au début, j'avais envie de parler de sujets en particulier. C'était pas ce que je fais maintenant. J'avais envie et ce que je faisais, c'est que j'écrivais tout sur un sujet, un peu argument pour, argument contre, pour faire les gens qui seraient pas d'accord, machin. Il y avait aucune blague, j'écrivais toute l'argumentation, 6-7 pages, ensuite je faisais une synthèse, je réduisais à une page, et puis je remplaçais chaque phrase par des blagues. Comme ça, je savais que, derrière les blagues, il y aurait quand même un fil, tu vois, il y aurait quand même un marqueur logique, il y aurait une évolution, tu vois. C'était plus logique pour moi. Les blagues venaient en dernier. Et maintenant que je me suis plus inscrit dans le côté absurde, parce que je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir à être là-dedans, là, c'est juste, je pars d'un truc et j'essaie d'aller, va loin. Et je vais toujours trop loin dans l'écriture, mais ensuite, par le jeu, je reviens à une sorte de juste milieu, quoi.
Ok, c'est en testant que tu sais où est la limite, quoi.
Ouais, à peu près. Mais ma méthode d'écriture était très claire au début. Et comme je décidais d'arrêter de parler de sujets à la fois politiques ou d'avis ou d'opinion sur scène, ça a changé ma manière d'écrire. C'est un truc, en fait, j'ai pas renoncé. Moi, tout ce qui est société, actualité politique me passionne. J'ai pas du tout renoncé à en parler. C'est juste que je préfère les garder pour un format chronique. Je préfère les garder pour un format écrit où je peux pas déborder. Parce que moi, parfois, j'improvise et je dis des dingueries. Dire que j'ai un côté très naïf, très. Attends, je réfléchis à voix haute, qui fait que je peux dire des choses que voilà. Moi, podcast avec Pierre, on a dû couper plein de passages. Il me disait, mais mec, tu te rends pas compte. Enfin, tu peux pas dire ça et tout. Ah bon? Donc voilà, c'est trop de risques. Dans la société dans laquelle on vit, je peux pas prendre le risque d'improviser sur ces sujets sur scène.
Okay.
Ce que je sais que je ferai, donc je préfère les enlever et garder ça pour un moyen, la technique qui, voilà, c'est écrit, il n'y a pas d'impro. Mmh. Donc je préfère faire ça.
En format chronique, quoi.
Oui, puis surtout, tu mets de l'actualité dans un spectacle, tu dois le changer tout le temps et tout, j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, je garde ça pour si un jour, Inch'Allah, j'ai des chroniques ou un format comme ça, voilà. Là, je parlerai plus de mes idées et tout, mais sur scène je veux rester dans de l'absurde, dans de l'enfantin et voilà, mais jusqu'à ce que j'évolue hein, pour l'instant.
Ton objectif quand t'écris, c'est pas spécialement de faire rire au départ?
Alors au début c'était vraiment le moyen, c'était pas le but. Le but c'était de parler de trucs, c'est pour ça que le texte venait en premier, enfin le texte sérieux, et les blagues étaient le moyen de machin. Mais maintenant que le rire est devenu mon objectif, et c'est devenu le but et plus le moyen, c'est vrai que ça a un peu changé à ce niveau-là. Maintenant j'essaie de... En fait, il y a tellement de fois où les gens riaient de trucs et moi j'étais vraiment hyper sérieux. Je me suis dit, mais non, enfin c'est vraiment drôle. Mon truc des nuques et des miroirs, pour moi c'est pas drôle.
Je trouve ça génial.
Pour moi, merci, mais tu vois, pour moi c'est vraiment juste une vraie réflexion. Mais attends, vu que tu te regardes, enfin pour voir ta nuque il faut deux miroirs, mais avant il n'y avait pas de miroirs, il fallait se voir dans un cours d'eau, mais du coup, enfin ils n'avaient pas de cours d'eau parallèle. Donc, enfin tu vois, c'est des vraies réflexions. Et vu que les gens se marrent, je me dis, bon bah écoute, tant mieux. Parce que vu que quand je suis sérieux, les gens rigolent, bah voilà, j'ai juste à être très sérieux et aller au bout de ça, quoi. Donc moi, j'écris vraiment des vraies réflexions, et derrière, ça rigole, je me dis, bah, yes, c'est gagné.
Ok, mais donc tu le sais une fois que tu le joues?
Ah ouais.
Je sais rien. Obligé de tester, oui.
Bah, je sais rien avant de monter. J'ai pas la moindre idée. La nuque, moi, la première fois que je l'ai joué, je me suis dit, ça va faire un four. Okay. Ça va faire un énorme four.
Ah, c'est marrant, ça. Parce que moi, souvent, quand je me dis qu'il y a un truc qui... Quand j'écris et je me dis, ça, c'est drôle...
C'est jamais drôle.
Non, qui me dit ça, c'est vraiment drôle. Souvent, c'est que ça l'est au moins.
Ouais.
Et quand j'hésite, là, il faut que je teste. Mais souvent, je sais quand même ce qui va marcher quand même.
Alors, moi, c'est la loterie.
Ok, c'est marrant.
Moi, j'arrive. Moi, j'étais persuadé que j'ai écrit un passage sur les dents. Moi, je trouve hilarant pour moi. Ça marche pas. Hein. Et puis derrière d'autres trucs, je dis oh, et ça marche. Bon.
Okay.
Mais du coup, quand je joue maintenant, j'essaie de trouver. J'apprends à faire des compromis. À mettre ce qu'ils attendent, puis à mettre ce que je veux. Enfin, tu vois, j'ai pas non plus envie d'être que dans le... Je réponds à une demande. Donc, voilà. Bon, allez, je fais cet effort-là. C'est toutes les trois phrases où je me fais plaisir, j'en cale une qui les fait rire eux, et moi, ça me plaît moins. Bon, bah, c'est pas grave. Ça participe au truc, quoi.
Mais du coup, toi, t'es obligé de tester pour savoir. Et du coup, bah, ça te pousse à tester que... moi, c'est ça qui freine, c'est que je me dis, ouais. C'est pas drôle. Et je sais d'habitude que quand je trouve ça pas drôle, c'est pas drôle, du coup...
Je comprends.
Ouais. C'est un cercle. Ok. Pour remplir ta salle, tu t'es d'abord concentré sur Bière et Duc.
Ouais.
Comment t'as fait pour mettre ça en avant et quel est l'intérêt de mettre en avant Bière et Duc?
Bon, Bière et Duc, de ce que j'avais compris en commençant, c'était vraiment un truc qui servait beaucoup pour remplir. C'était un algorithme sur lequel fallait surfer. Donc j'insistais juste beaucoup. J'avais juste un discours très rodé de Bière et Duc à la fin du spectacle. Mettez une critique. Et grâce à ça, j'ai. Bah, petite cloche, j'ai fait 39 dates, j'ai fait 38 complets. Alors c'est 25 places, mais bon, je suis quand même assez fier de cette perf. C'est en Bière et Duc. J'ai passé 10 dates, j'ai insulté tous mes potes, relance. Ils en ont mis 100 et les 100 ont rempli la salle pour les 30 dates d'après. Quoi. Là, ça marche moins bien parce que je suis passé au Métropole. Vu que c'est un algorithme, vu qu'il y a, comment dire, en ratio moins de critiques par rapport au nombre de spectateurs, parce que tu sais, quand j'ai commencé ma salle, j'avais 20-30. Bah, du coup, quand t'as 5 critiques dans une salle de 25 places, c'est vachement bien. Quand t'as 5 critiques dans une salle de 100, c'est moins bien. Donc, du coup, voilà, l'algorithme Bireduc marche beaucoup moins bien depuis que je suis au Métropole. Donc, j'essaie de trouver des solutions alternatives. Ça passe beaucoup par le fait de supplier. Voilà, c'est ma méthode qui marche le mieux.
Et sinon, sur les réseaux sociaux, à partir d'octobre 2019, t'as commencé à publier des moments d'impro et même des passages du spectacle, parfois, donc des passages plus écrits.
Non.
Jamais? Toujours que des moments d'impro?
Non, je veux pas sortir mes blagues du spectacle.
Okay.
Alors après, quand je sortais un bout du spectacle, bah, je pouvais publier 2-3 extraits parce que je sais que je le jouais plus.
Voilà.
Mais j'essaye de. Alors j'ai changé d'avis récemment sur les captations. J'ai fais 2 émissions pour le Paname et j'ai écrit des trucs juste pour l'émission. Parce que j'avais pas envie de leur donner un morceau de mon spectacle, et en fait, ironiquement, vu que ça a très bien marché, je l'ai intégré au spectacle. Donc finalement, voilà, tant pis. Mais non, je sors que des moments d'impro, d'interaction pour le moment. Parce que je me sens pas prêt, je suis pas encore assez content de là où je suis humoristiquement, j'ai pas envie de publier des extraits que je regretterai plus tard, donc voilà. Le temps d'être content de ce que je produis et de trouver une captation propre, non, je voulais que de l'impro.
Mais est-ce que les moments d'impro, les mettre en vidéo et les partager sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que t'aimes faire ou tu te dis c'est parce qu'il faut le faire?
Oh, franchement, moi, je le jour où je peux me passer de réseaux sociaux, je désinscris partout. Enfin, c'est,
okay.
J'aime pas ça. Je le fais vraiment. J'essaie quand même d'être sincère dans ce que je fais parce que si tu fais ça de manière mécanique, les gens le sentent. Et le principe des réseaux sociaux, qui marchent, c'est quand même quand les auditeurs ils sentent c'est lui. Tu vois, c'est une honnêteté. Je suis avec lui, je partage la vie et tout. Donc, je pense que tu le fais de manière complètement cynique, ça marche pas. Donc, j'essaye d'être. Puis voilà, parfois même l'année, je prends du plaisir et des jours, je mets des stories et tout, mais c'est juste que c'est un piège aussi. Tu vois, enfin, je commence à prendre du plaisir, c'est-à-dire que je rentre dans une logique un peu de je partage ma vie, je fais des trucs, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est un truc qui me bouffe du temps, je me sens mieux sans réseau. Quand je suis en vacances, je coupe les réseaux, je me sens mieux que jamais. Donc, moi, j'aimerais, entre guillemets, percer pour ne plus avoir besoin de réseau.
Ok.
Tu vois, me dire demain, je sors un spectacle, et pouf, c'est complet, parce que voilà. Oh là là, tu vois. Génial, bah, tu te protèges mieux comme ça, quoi. Le but des réseaux, c'est de les travailler pour m'en débarrasser.
Mais tant qu'on parle de vidéos sur les réseaux, récemment t'as publié les vidéos tuto,
ouais,
que j'aime beaucoup, surtout comment prendre confiance,
ouais.
Ça m'a fait beaucoup beaucoup rire.
Merci.
C'était venu de cette idée, et est-ce que ça t'amuse du coup à le faire?
Bah, tu vois, on en revient à ce truc de, je venais de parler de la sincérité dans les réseaux. Pendant un an et demi, je me suis dit, vas-y, faut que je trouve une idée sur les réseaux, qu'est-ce qui va marcher. Je prenais la tête, j'écrivais des trucs, puis des résultats. Allez, on va être très gentil en disant nul, parce que vraiment, enfin, parfois je fais des vidéos, 5 jours de travail, 2 abonnés, t'es là, bon, pff, c'est nul, quoi. Et un jour, j'étais dans le train, et j'étais en gueule de bois, pour, oh, je me suis dit, allez, faut que je publie un truc, et j'ai eu l'idée de faire ce truc de tuto, comment remplir son spectacle. Et vraiment, de l'idée à la sortie du truc, il y a eu 35 minutes. Enfin, c'était vraiment le truc que j'ai fait vraiment en mode, ouais, je m'en fous, vas-y, ça c'est exactement moi, je fais ça. Et je pense qu'en ratio, c'est la vidéo que j'ai faite qui a le mieux marché, qui j'ai eu le plus de retours. Et en fait, tu vois, les réseaux, c'est ça, quand je dis la sincérité marche, ben, le moment où j'ai pas réfléchi, qu'est-ce qui fonctionne, où je dis juste, vas-y, ça c'est moi, vas-y, on va ça. Où j'ai fait ce qui m'a plu à moi, ben, c'est là où ça a bien marché. Donc, du coup, ce truc de tuto, j'ai commencé là le mois dernier à le ressortir, parce que c'est un format que je peux sortir assez facilement toutes les semaines. Bon, là, je peux pas aujourd'hui, parce que je suis en Belgique, mais je pense un truc que je peux sortir régulièrement et qui. Je me reconnais dedans. Ça cartonne pas, mais je m'amuse dedans. Et je pense que c'est le plus important quand même.
À fond, mais elles sont chouettes. Je trouve que ça match avec ton style d'humour aussi. C'est fun, ça se regarde vite, c'est cool, quoi. C'est vraiment un truc très Instagram, très chouette à regarder. Moi j'aime beaucoup. Je te dis l'épisode de comment prendre confiance, je l'ai regardé plusieurs fois parce que ça me fait rire.
C'est vrai.
Souvent je les regarde quand tu les postes, et ici comme je préparais les épisodes, je me suis dit je vais me les refaire avec plaisir, tu vois. Et ça c'est cool.
Le prochain, je vais essayer de les travailler en format vertical.
Ok.
Bon, et moins d'une minute pour sortir en réel, voir un peu comment ça.
Ouais.
C'est le problème que j'ai avec les réseaux, c'est que moi j'aime les formats longs en mode paysage et un peu complexe absurde. Et ce qui marche sur les réseaux, c'est le format court, en portrait et plutôt explicite et simple. Donc bon, en ce moment je suis en train d'essayer de trouver un compromis entre ce que j'aime et ce que les réseaux attendent. Ouais.
Bah, tu sais, moi pour les podcasts, on conseille souvent de faire des podcasts de moins de 20 minutes. Et moi le plus court dure 45 et le plus long 4 heures. Donc,
mais bravo, putain.
Donc je suis pas choisi le meilleur truc, mais en même temps ça me frustre tellement les interviews où on fait bon, on n'a pas le temps de continuer à discuter, on se revoit la semaine prochaine. Mais pourquoi t'as pas le temps en fait? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est toi qui as choisi c'est toi qui as choisi le format.
Ouais.
Si tu voulais faire le double, tu pouvais. Ouais. C'est un truc qui m'énerve de toujours beaucoup. Voilà, vous entendez un téléphone dans le couloir, je ne sais pas à qui il appartient.
C'est fort hein, parce que la porte elle est quand même assez solide, quoi.
On ne sait pas. Après, en janvier 2020, tu obtiens les prix de la presse, prix du public et prix du comité au festival Les Sommets du Rire. Le prix du jury et le prix du public au festival L'Air d'en Rire, donc oui. Ça c'est en 2021. Est-ce que t'aimes les concours d'humour et comment toi tu les abordes?
Je trouve que forcément le truc de prix, il y a ce double truc où d'un côté t'es là, ouais, mais c'est ridicule de mettre des prix, ça met une compétition. De l'autre côté, quand t'en as un, t'es un peu content, tu vois. Enfin, donc il y a un peu ce truc où t'es un peu les deux en même temps. Moi j'adore les festivals d'humour parce que bah, c'est franchement, quand ils sont bien organisés, c'est 4-5 jours avec des copains, tu rencontres des gens, tu bois, j'adore. Je devrais peut-être pas dire ça. Non, boire, c'est dangereux. Les enfants, ne buvez pas. Tu rencontres des gens, tu passes des bonnes soirées. Moi, j'adore l'ambiance. Genre, j'ai fait Tournon et Mâcon aussi, c'était vachement génial. Et après, par rapport à l'approche du truc, bah écoute, Ariège Beaufort, pour le coup, lui, c'était début 2020, Ariège Beaufort. Et c'était mon premier festival, et il fallait faire 10 minutes le premier soir, 10 minutes le deuxième, 20 minutes le premier, 10 minutes le deuxième, 10 minutes le troisième.
Ah ouais, quand même.
J'avais à peine 40 minutes, donc là, j'ai pas réfléchi, j'ai mis tout ce que j'avais. Les autres, j'ai testé des trucs, parfois à tort, parfois à raison. Tu vois, L'Air d'en Rire, j'ai fait les guetteurs. Ouais, c'est pour moi, ça marche et tout. J'ai gagné, bon, tant mieux, tu vois. Mais par exemple, à Mâcon, c'est là où tu vois que parfois j'ai un ego très mal placé. Macron, je me suis dit, vas-y, je... Pourtant, il y avait un beau line-up. Il y avait William Pillet, il y avait Harold Barbet, il y avait Thibaut Agoston, il y avait. Enfin, en tout cas, on est quand même. Inno, enfin, je veux dire, on est quand même sur du bon niveau. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de. Je vais mettre mes textes qui marchent moins bien. Je vais essayer de. J'ai essayé de voir si j'arrive à aller. Parce que, en fait, les trucs qui marchent bien, entre guillemets, il y a un côté, je sais que ça marche. Et j'avais besoin d'un peu d'un défi. Vas-y, on va voir si dans une grande salle comme ça. Il y a des textes parfois, ils marchent pas dans les petites, et dans des grandes, il se passe des trucs. Donc j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, je suis arrivé à Macon avec des trucs un peu claudiquants. Et bon, ça a pas marché, hein, évidemment que non. Alors quand j'ai appris qu'il y avait 600 € pour le prix, bah, j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, c'était pas le moment pour faire ça. Et tu vois, mais au fond de moi, je pense que j'avais encore une certaine naïveté parce que je me disais, pour en soi. Un pro, même si ça marche moins bien, il voit l'univers, il voit ce que j'essaie de défendre, ça change rien. Et finalement, j'ai fait le chenille à Lausanne il y a deux, trois mois, et il y avait et j'ai plutôt bien marché. Avec mes textes du coup, voilà. Il y a quelqu'un qui était présent à Macon, qui vient me voir, il fait putain, mais c'est vachement mieux, t'as vachement progressé. Et moi, j'étais non. Elle fait comment ça, non. Je suis non, c'est juste, enfin voilà, je fais d'autres textes qui marchent mieux et tout. Je fais pourquoi t'as pas fait ça à Macon. Je suis je sais pas, j'ai envie de. Et en fait, je pense que j'ai dit un truc, et c'est là où je vois que parfois mon innocence peut me faire passer pour un sale type. C'est ce que j'ai dit, en fait, j'ai dit, je sais pas, pour moi, un vrai pro, ça voit un truc et ça comprend que l'univers et tout. Et en fait, je me rendais pas compte que, en quelque part, je l'insultais un peu en disant ça. Tu
vois, un peu.
Non, mais si, oui. Clairement, parce que elle, c'est une pro, elle m'a vu là-bas, elle me revoit là, et je dis, non, mais un vrai pro, il sait faire la différence. Je dis, putain, mais je suis trop con, mais ferme ta gueule, tu vois. Parfois, ma naïveté peut être vraiment. C'est pour ça qu'il faut que je ferme ma gueule, c'est pour ça que je fais pas de politique sur scène. Tu sais, je parle et tout, je me dis, mais je suis un sale type en fait, putain, mais ça se fait pas du tout.
Je peux comprendre ce genre de phrase que je pourrais placer sans problème. C'est pour ça que j'aime bien le podcast aussi, cette capacité à pouvoir couper des trucs.
Ah ouais, mais ça c'est génial. Après, je parle de Macon comme si, je veux dire, vu le niveau qu'il y avait ce soir-là, il y a eu des super perfs, même avec mon sur, je sais très bien que je serais parti bredouille. Enfin, il y avait des mecs, William Pillet, qui est un des mecs les plus drôles. Qui existe en France, Inno, super passage, donc voilà, c'est pas du tout un. Ah putain, si j'ai fait mon sur, j'aurais carte. Non, pas du tout. Peut-être que même j'ai mieux marché avec ces textes-là, parce qu'il y a un effet nouveauté et tout, j'en sais rien. Mais j'aime bien mettre des défis. Mais en festival et en tremplin, c'est un peu con, quoi.
C'est pas le meilleur endroit.
Non, j'ai déjà fait des erreurs stratégiques graves. Hashtag Jamel.
Tu veux en parler ?
Non. C'est dans le blog, ils y retrouveront.
Ça marche. Je mettrai le lien vers le blog d'ailleurs.
Allez, allez.
Je trouve ça super chouette à lire d'ailleurs.
On embrasse le blog.
On embrasse le blog. Et on embrasse la femme de ménage qui passe l'aspirateur dans le couloir. J'espère que vous l'entendez pas trop. Après, en mars 2020, comme tous les artistes, t'es contraint d'arrêter la scène. Tu pars à la campagne avec ta sœur et tu décides de mettre ce temps à profit en écrivant une pièce de théâtre et en transformant ton spectacle en version audio.
Ouais.
On va commencer par la pièce de théâtre qui est, elle, un mélange entre du stand-up et du théâtre.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu et où en est le projet ?
Ouais, l'idée c'était de mélanger stand-up et théâtre, c'est-à-dire d'avoir deux types de jeux, c'est-à-dire une partie au micro et une partie jouée, des parties avec quatrième mur, des parties sans. Et ça fait partie de ces projets que j'ai écrit, j'ai beaucoup travaillé dessus, puis j'ai trouvé ça nul à chier, je l'ai laissé dans le placard pendant deux ans, et puis là, putain, je l'ai ressorti il y a deux mois, je suis dit, mais attends, mais c'est vachement bien. Et donc du coup voilà, là je commence, je vais l'envoyer en lecture un peu pour voir si on peut faire des trucs avec. Non, je trouve qu'il y avait des bonnes idées, je l'ai écrit avec Tierno, et ça m'a beaucoup occupé pendant le premier confinement. Et le spectacle audio, bah ça c'était un côté. Bah au début on savait pas combien de temps ça allait durer. Donc je lui disais bah écoute, si jamais ça dure un an, c'est bien le spectacle de que les gens y aient accès. Donc je l'ai retravaillé en audio. J'ai énormément appris, alors malheureusement pour ceux qui l'écoutent, j'ai appris pendant. Souvent les specials américains, ils mettent aussi leur truc en podcast sur Spotify tout ça, et en fait mon spectacle ça marche pas du tout avec ça, parce que c'est un spectacle qui est quand même très très visuel, où je joue beaucoup, moi je fonctionne pas vraiment à la punchline, c'est beaucoup dans la manière d'organiser un petit peu le corps, la tête, tout ça, j'essaie d'être très, beaucoup de mimiques, genre de choses. Après peut-être je me trouve une excuse, peut-être qu'il est juste pas assez drôle, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il a fallu que je fasse des changements, j'ai rajouté ce second personnage, Fabien, une espèce de deuxième voix qui discute un petit peu, et voilà, j'essaie de le sortir en rajout. Alors déjà, ouais, vu qu'il a changé depuis, les textes maintenant sont presque plus ou moins originaux, et surtout voilà, j'ai essayé de chaque texte de 3 minutes de spectacle, je le transforme en 8 minutes en audio. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait presque 2 heures je pense maintenant.
Mais c'est il y a 12 épisodes de 10 minutes, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc non, c'était un bon exercice et je suis très content que tu m'en aies reparlé, j'avais oublié l'existence de ce truc.
Oui, j'ai écouté tous les épisodes, j'avais déjà écouté certains épisodes, là j'ai tout réécouté d'une traite, et en fait je t'envoyais les vannes qui me faisaient trop rire au fur et à mesure que je les écoutais, parce que j'ai vraiment beaucoup ri en écoutant ce spectacle. Moi j'ai adoré le format en fait, je trouve que t'as su jouer avec, parce que t'as intégré des running gags, t'as le personnage de Fabien qui me fait rire, moi ça revient, et Je suis un gros fan de Running Gag aussi, donc je trouve ça drôle. T'as mis des sons, t'as mis des bruitages, tu t'es amusé et tu pars des fois dans un truc tellement loin et je trouve ça super drôle. Plus tu vas loin, plus j'aime. Bah, je suis fan de Baptiste Le Caplain, donc
ouais, bah oui.
J'aime bien qu'on étire une idée et qu'on va jusqu'au bout. Donc je trouve qu'il y a vraiment des petites perles dedans. Moi, je me suis noté pour me rappeler, il y a le nom des singes. J'ai vraiment ri très fort sonore. Je sais pas si tu te rappelles de ça. J'ai fait.
Oh, ah, bon, attache de couilles.
Et du coup, j'étais dans ma voiture, les fenêtres ouvertes, en écoutant avec mes écouteurs.
C'est très dangereux, ne faites pas ça.
Non, mais à l'arrêt.
Ah, oui, d'accord, ok, d'accord. Okay,
j'écoutais en attendant.
Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il recommande à ses auditeurs là? C'est dangereux.
J'écoutais en attendant ma copine. Et en fait, j'écoutais comme ça. Et j'ai vraiment ri très fort parce que j'étais surpris par ce truc. Et là, ils sont passés dans la rue en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il rit tout seul dans sa voiture?
C'est sympa.
Je trouve que c'est vraiment drôle. Donc, je vous invite les auditeurs à aller écouter ça. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de podcast. En tout cas, il est disponible sur Spotify. Je sais pas pour les autres.
C'était mieux maintenant, c'est ça. C'est maintenant, et si vous le trouvez pas dans ma bio Instagram, je mets le lien.
Voilà. Et je le mettrai dans le lien de l'épisode aussi pour que vous alliez écouter. Mais comment t'as réussi à te détacher du besoin qu'on a généralement, c'est d'avoir un retour immédiat sur ce qu'on fait? Parce que moi j'ai essayé de faire.
Ça m'a rangé. Quitte à pas de rire autant que ce soit volontaire. Tu vois.
Parce que moi j'ai essayé de faire des chroniques au tout début que je faisais le podcast, d'essayer de faire que un sujet et de parler, mais le fait de ne pas avoir de retour m'a complètement bloqué.
Ouais, bah après, bon, vu que c'est du format audio, tu sais que t'as pas de retour, donc ça a pas vraiment été le problème. Par contre, quand j'ai commencé le podcast et qu'à la base je voulais juste faire le spectacle et le lire en audio, ça marchait pas du tout.
Oui.
C'est un exercice radicalement différent. Et quand je fais ce truc, encore une fois, de fiction audio et tout, c'est une écriture très différente de la fiction scénaristique, du cinéma, de la télé, quoi. Donc il a fallu réinventer un peu tout ça. C'est vrai que le langage audio est hyper intéressant, mais tellement différent. J'admire les Américains. Qui arrive à être hyper drôle en podcast sur le même special sans aucun changement, wow, c'est là où tu dis que c'est des monstres. Ouais. C'est des monstres.
Mais je trouve que t'as vraiment bien fait ça parce que. Mais comme tu dis, t'as intégré d'autres choses pour que ça fonctionne. Je trouve que t'as vraiment bien fait ça. Allez écouter. Il y a vraiment des petites perles dedans que j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que j'ai pas fait beaucoup de compliments, donc je vais insister
sur ça. Ouais, non, il en manquait un peu. Tu m'avais promis de la flatterie et je trouve que dans l'ensemble, on est sur un niveau 6 sur 10.
J'ai ri du début à la fin. Quelle écriture, mais quel talent.
Là, c'est trop.
D'accord. Je voulais monter au moins à 7. Tu sais, moi j'ai un problème avec les points.
7, c'est bien.
À partir de juillet 2020, tu postes les chroniques d'un centriste radical, soit 24 chroniques entre 3 et 5 minutes. Mm-hmm. Déjà, on va devoir expliquer ce qu'est un centriste radical.
Oh, bah, ça, c'est une manière. J'essaie de rendre intelligent le fait que je prends jamais aucune décision et que je suis une grosse merde. Non, c'est que je pense quand même à avoir une certaine empathie et je comprends plus ou moins tout le monde, même ceux qu'on n'est pas censé comprendre, si je m'en réfère à la doxa moraliste parfois parisienne. Et ce fait de comprendre tout le monde fait que j'arrive pas à avoir un seul avis. Quelqu'un me dit un truc, je suis ouais grave. Quelqu'un me dit l'inverse, je suis ouais grave. Et j'ai très peu d'avis sur les choses, j'ai très peu d'opinions, et j'ai envie de rendre ce concept faiblard sexy, tu vois, de genre. Okay. Non, c'est pas que je suis une merde transparente, pas du tout. C'est que je suis centriste radical. Je trouvais ça rigolo de transformer une sorte de défaut en quelque chose de volonté, tu vois. Donc, j'ai transformé un défaut en volonté politique. Puis... Mais je suis pas centriste politiquement.
D'accord, précision.
Non, c'est parce que tout le monde me dit putain, toi, le centre c'est de la merde. Je ne vote pas au centre, les gars. Arrêtez de me.
j'ai juste pas d'opinion. C'est juste ça que je voulais dire, les gars.
C'est un peu ça. Ouais.
Ok.
Je m'intéresse vraiment aux choses, mais c'est juste que. Tu vois, je me rappelle à un moment de la guerre en Syrie, je m'étais dit vas-y, ça j'ai envie de tout comprendre. Je me suis acheté 6 bouquins. Putain, plus je me renseignais, moins j'avais d'avis. Dire chaque nouveau livre, je fais ah ouais, mais non, mais en même temps, ah mais oui, mais attends, bah oui, mais. Et j'étais, bon, bah je comprends tout le monde, ça sert à rien quoi. Plus je me renseigne sur un sujet, moins j'ai d'avis. Et de manière générale, j'ai l'impression quand même. Que plus les gens sont véhéments dans leur opinion, moins il y a de fond derrière, tu vois. Oui. Ah, évidemment que c'est comme ça. Bon, bah, lis l'inverse, et puis, tu vois.
Ouais, c'est ça, oui. Pourquoi t'avais envie de poster tes chroniques, du coup? Parce que c'est quelque chose que tu répètes souvent, c'est que tu adorerais faire des chroniques. Ouais. Genre, France Inter, c'est un peu le Saint Graal pour toi?
C'est le Saint Graal du remplissage de salles. Okay. Je suis pas forcément particulièrement... moi, je te dis, j'écoute pas la radio, j'écoute pas trop ça, donc voilà, j'ai pas une passion France Inter, je veux pas couler mes chances d'y être un jour en disant ça, mais c'est juste que... Étant donné que j'adore les trucs sans filet, étant donné que j'adore les trucs de test, étant donné que j'adore écrire, moi, le format chronique, depuis le début, je suis persuadé que c'est un format qui me convient énormément. Okay. Et qu'en plus, c'est un format extraordinaire aujourd'hui pour remplir sa salle. Donc moi, je pense que j'ai tout à gagner d'en faire. Et comme j'avais pas envie d'arriver... Ouais, j'ai envie d'en faire. Ah bon, prouve-le. L'idée des chroniques centristes radicales, c'était de me faire un peu un CV audio. Mmh. C'était d'apprendre, moi, à le faire. Et puis, si quelqu'un me pose des questions un jour, je me dis, écoute, tu verras. Bon, je sais pas si je le renverrai aujourd'hui, parce que j'ai encore évolué depuis que je les ai faites. Mais ça me permettait de m'entraîner, ça me permettait de me soumettre à cette contrainte-là du 3 à 5 minutes chaque semaine. Et c'est là l'avantage du Love Steady Crew, c'est que j'ai une base de données de 200 textes. Oui. Pff, en vrai, voilà, demain, même si une semaine j'ai pas d'inspi, j'ai du backup pour 2 ans, quoi. Y a pas de, okay. pas de problème.
Et est-ce que tu vas en faire d'autres?
J'espère. Je t'avoue que dans mon évolution de carrière, j'espère en avoir une un jour, parce que je te dis encore une fois, ça, je pense que ça correspondrait à ma personnalité, ce qui permettrait de remplir ma salle, donc ouais, j'y compte. Mais j'ai encore contacté personne, j'ai pas. C'est comme mon spectacle, j'ai invité aucun pro à mon spectacle, parce que. Bah, un pro, il vient à mon spectacle, il aime pas trop, il revient quoi, 3 ans après? T'sais, il me laisse une chance 3 ans après. J'ai pas envie de me dire que je l'ai invité trop tôt, quoi. Donc, tant que je suis pas complètement satisfait de ce que je montre, je compte sur le karma. Genre, s'ils viennent, je vais pas leur interdire. Et d'ailleurs, il y en a qui viennent, c'est hyper cool. Mm-hmm. Je sens qu'ils s'intéressent, ils entendent parler, donc c'est hyper valorisant pour moi. S'ils viennent, je vais pas leur interdire de rentrer, mais je vais pas les inviter.
Mais les avis que j'ai vus en faisant mes recherches sont super positifs. Enfin, moi, les articles du Spot du Rire, par exemple.
Oui, oui,
le spot. Assez génial.
On embrasse Juliette Follin, fondatrice du Spot du Rire.
J'ai utilisé ces articles comme base pour mes.
Ah, bah je comprends pourquoi. Oui, très bien, ces articles.
Je lis absolument tout et j'écoute tout si possible, mais le Spot du Rire, c'est vraiment une bonne ressource qualitative.
Ouais, c'est une. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un avis.
Oui.
Ce que je trouve qu'il manque relativement de manière globale aujourd'hui. Et je trouve ça chouette. Quelqu'un qui assume ses idées, qui ose dire ça j'aime pas. Aujourd'hui c'est marrant, mais je trouve que. Enfin, c'est pour ça que je parlais du mot bienveillance un peu. Aujourd'hui, mm-hmm. sous couvert de bienveillance, j'ai l'impression que. On peut plus dire j'aime pas, tu vois.
Oui, c'est difficile de le dire en tout cas.
Alors, je veux dire, il y a des plats que t'aimes pas, il y a des styles musicaux que t'aimes pas. Enfin, moi quand je dis ce que fait tel humoriste, j'aime pas. Ah, mais t'es méchant, t'es pas bienveillant. Mais non, putain, mais. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que la notion d'avis disparaît sous couvert de bienveillance. Bon. J'entends plus, lui j'aime pas, j'entends plus. Y a aucun humoriste qui dit lui j'aime pas, je comprends pas. Toi t'aimes tout?
Non, y a
pas. Si t'aimes, enfin le.
Non.
Mais moi faut ne pas aimer, tu vois.
Mais moi je le dis souvent dans le podcast d'ailleurs, c'est que je n'invite que des humoristes qui me font rire et que j'adore ce qu'ils font, parce que je serais incapable d'interviewer quelqu'un et lui dire ah alors t'as joué au spectacle.
Oui.
C'est les thèmes que t'abordes, c'est quoi? Ah j'adore ce que tu fais. Je suis incapable de faire ça.
Ouais.
Et ou alors même je dirais pas, mais j'aurais même ça m'intéresse pas. Tu vois je ferais mes recherches en me disant en regardant chaque vidéo en me disant. Ça, je trouve pas ça drôle. Je vais vraiment encourager des gens à aller voir un truc que moi j'aime pas personnellement. Et en plus, le fait que moi j'aime pas personnellement, ça va faire que je le vends pas bien. Parce que des fois, il y a des gens qui sont ultra talentueux,
ouais.
mais que t'aimes pas. Et tu peux rien y faire. Tu vois, je veux dire, il y a des gens qui ont écrit des trucs qui sont des chefs-d'œuvre pour certains, et que moi je vais lire en me disant, mais c'est nul ce truc, c'est chiant. Et c'est juste pas une bonne façon de le vendre. Je préfère inviter des gens que j'aime bien et les mettre en avant que dire. Je prends quelqu'un parce qu'il est connu ou parce qu'il marche bien ou parce que tout le monde me dit faut que tu le reçoives, ben, je trouve pas ça intéressant. Donc oui, il y a des humoristes que j'aime pas et c'est normal.
Et puis il faut séparer le c'est bon, c'est pas bon de j'aime pas. Il y a des mecs où je sais pas, clairement je trouve ça très fort mais j'aime pas. Enfin, c'est pas un problème quoi. Il y en a d'autres que clairement je trouve ça pas bon mais j'adore. Enfin, c'est pas grave. C'est bien.
C'est deux choses séparées. Il y a des gens que je reconnais le talent et je me dis, je vois les gens qui rient et je fais oui, c'est vrai que c'est bien fait. Mais je sais pas, ça m'a pas touché.
Ouais, c'est ça. Il y a plein comme ça.
C'est aussi un truc que j'adore dans le stand-up, c'est que c'est tellement subjectif. C'est ce qui fait que j'adore et que je le déteste parfois, parce que quand quelqu'un n'aime pas ce que je fais moi dans ce cas-là, je fais ben. Je comprends que t'aimes pas, mais ça me fait juste tellement du mal que t'aimes
je
pas.
Je comprends, j'aime pas non plus ce que je fais.
Moi j'aime bien encore ce que je fais. C'est tellement. En même temps, tu peux pas ne pas aimer ce que tu fais. Sinon.
Ça dépend. Hein.
Ben, est-ce que tu peux vraiment vendre un truc que t'aimes pas?
Non, mais t'es obligé. Enfin, je veux dire, quand. Moi par exemple, quand un texte commence à bien marcher, je le joue 15 fois et ça me saoule, j'ai plus envie.
Okay.
Mais pour aller me montrer pour des échéances machin, je suis obligé de le jouer et il faut que je simule le fait d'être content de le jouer quoi.
Ok, ouais. Je crois que j'ai pas encore assez de scènes pour ne plus.
Bah alors me parle pas débutant. Mais qui s'énerve. Alors qu'est-ce que tu m'as vu?
Me parle pas débutant. Je vais juste garder ça.
Je vais insulter les gens qui m'invitent. Je trouve que ça marche bien.
Non, mais moi, généralement, je me fais inviter. Je me fais insulter par tous les humoristes, mais plutôt dans la dernière partie du podcast. T'inquiète pas, ça va arriver. Ensuite, lors du deuxième confinement, tu pars 3 mois au Maroc et 1 mois et demi au Sénégal.
Ouais.
Mais pas pour glander, car tu écris un roman là-bas. Tu as écrit les 30 premières pages lors du premier confinement, mais tu trouvais ça nul, donc tu l'as jeté à la poubelle. Mais après, tu l'as repris, parce que c'est un peu ce que tu fais avec les projets, comme on disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, en atterrissant au Maroc, tu trouves l'angle qui te permet de transformer le truc. Et donc, tu t'obliges à écrire tous les jours de 8h à 12h, ce qui donnera le livre L'Omphalos. C'est bien la bonne prononciation.
C'est ça.
On se rappelle, je fais du latin, pas le grec. Ouais. Est-ce que tu peux pitcher un peu le livre pour les auditeurs?
Ouais. Alors le livre, c'est l'histoire d'un jeune trentenaire qui se réveille un matin et son nombril est décalé d'un centimètre vers la gauche. Et comme c'est une personne qui est dans l'alignement, je suis très droit dans ma vie et tout. Cette asymétrie va le gonfler au point de changer sa vie. J'étais parti pour glander, enfin pas pour glander, mais j'étais parti pour ne pas faire de la merde, en fait, pour être très honnête, parce que la deuxième vague était très compliquée mentalement pour moi. Novembre, dur. Décembre, très dur. Janvier, plongeon. Enfin, vraiment, janvier, c'était, je pense, le pire mois de ma vie de très très loin. Parce que, c'est pas comme le premier confinement où tout le monde est arrêté en même temps que toi. Moi, en janvier, tous mes potes travaillaient, tous mes potes avaient une vie à peu près normale. Moi, j'étais dans mon appart, dans mon petit appart, tout seul. J'avais pas rien à faire, les journées étaient longues et tout, et c'était. Autant le double statut chômeur célibataire me va extrêmement bien en termes de liberté, autant en période de Covid, c'est vraiment une double peine, quoi. Et janvier, j'ai vraiment commencé à... Voilà, il y a un moment où je me suis dit, là, il faut que je parte. Je vais pas faire de la merde, mais je veux pas avoir à me poser la question, est-ce que je peux la faire, donc il faut que je parte. J'ai tapé pays sans Covid sur Google, sorti Maroc, je me suis barré en 24 heures, je sais plus, voilà. Et en arrivant sur place, le lendemain, ou deux jours après, les frontières ferment. Est-ce que vous voulez être rapatrié? Est-ce que quelqu'un m'attend à Paris? Non. Est-ce qu'un métier m'attend à Paris? Non, je reste. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à Maroc avec un autre humoriste, Sylvain Fergo, qui était sur place pour surfer. Et on a loué un appart avec une terrasse qui donne sur la mer. Je suis en vrai, si j'écris pas maintenant, j'écrirai jamais. Et vu que j'étais pas dans une phase de ma vie où je voulais écrire des trucs drôles, je me suis dit, j'ai toujours eu le projet de roman, on va le faire maintenant. J'ai aucune technique de concentration ni de travail, et c'est maintenant qu'il faut apprendre. Donc, je me suis forcé, 8h midi tous les jours, et même si. Je sors une ligne, je reste 4 heures de mon ordre. Tant pis. Voilà. Je suis avec un café, je regarde l'océan Atlantique. Il y a pire, tu vois.
Oui, c'est clair.
Donc, du coup, je me suis forcé et j'ai écrit ce bouquin pendant ces 4 mois et demi.
Ok. Et comment tu as vécu le fait d'écrire un roman?
C'était génial. J'ai adoré l'exercice. Par contre, je pensais que ça serait 20% de travail, 80% de plaisir d'écriture. C'était largement l'inverse.
Ok.
C'est-à-dire, j'ai repassé la grande majorité du temps, faire des post-it, arranger les trucs, bosser la structure, les personnages quand ils interviennent, les arcs narratifs, comment. Enfin. Le boulot chiant a pris largement le pas sur le moment où je déroulais, quoi. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman et j'en suis fier aujourd'hui, tu vois.
Ok, ouais.
Un truc que je dis souvent, donc j'en suis fier.
Mais tu disais que donc tu te mettais 4 heures pour écrire, même si t'écrivais une phrase. Est-ce que au final, il y a des jours où tu as rien écrit?
Ah oui.
Ok.
Ouais. Même des phrases où j'allais sur l'équipe, non, reviens. Enfin, tu vois, j'étais sur mon ordi et tout. Non, tu reviens à ton truc et tout. Des phrases, il y a des jours où j'ai rien écrit, il y a des jours où j'ai sauté le truc de 4 heures aussi, je vais être très honnête. Je me suis débattu avec mes capacités de travail de concentration, mais j'ai mené à bien le projet, et voilà. C'est plus de ça que je suis fier. Je suis fier d'avoir mené à bien un projet. Putain, j'ai fini un truc que j'ai commencé, impossible.
Et ce roman, tu l'as publié aux éditions Forgotten Dreams,
ouais.
La boîte d'édition d'un ami à toi, qui t'avait fait des retours sur les livres et qui se lançait, lui, dans l'édition.
Ouais.
Est-ce que tu es content des retours que tu as sur le livre et des ventes?
Très content, je suis très content. Dans la stratégie, la première année, on le vend juste en vente directe, parce que c'est là où tu te rembourses le plus, ça permettait d'éponger les frais, de création de structure et moi de certains investissements. Et tu vois, on s'était fixé 100, tu vois, un peu le cercle proche, machin. Bon, finalement, on est presque à 300, 350. Puis j'en vends à la fin de mes spectacles. Et ce que je trouve assez jouissif, c'est que j'ai écrit ce livre vraiment sans vouloir faire un truc drôle et pas en pensant à mon style humoristique. Et tous ceux qui l'ont lu me disent vraiment, il y a un chaînon entre ton humour sur scène et ça. Enfin, il y a une cohérence globale, quoi. Et ça m'a fait plaisir parce que je l'ai pas recherché.
Okay.
Donc si t'as une cohérence que t'as pas recherché, ça veut dire que t'as mis de toi, quoi. Et donc non, je suis très content, et du coup vu que ça marche bien et qu'on s'est remboursé plein de trucs, à partir d'octobre on le sort en librairie, donc il va vraiment sortir en librairie au mois d'octobre.
Oh nice.
Donc là j'ai hâte de voir du coup les vrais spectateurs, parce que pour l'instant les gens qui l'achètent sont les spectateurs qui ne me connaissent pas mais qui voient le spectacle. Mm-hmm. Et là ça va vraiment être des gens qui vont voir la couve en librairie, tiens ça m'intéresse, donc je suis très curieux.
Ok, ouais. Ah c'est trop cool. Rien d'avoir de voir son livre en librairie,
ça va être un petit kiff. Ça va être un petit kiff.
Moi j'avoue.
C'est pas mentir.
Je pense être revenu sur une majorité de ce que tu as fait, et j'espère ne pas avoir oublié d'éléments, j'espère.
Non, maintenant il reste plus que ce que je vais faire. Voilà.
Okay.
Si j'ai d'autres idées qui me reviennent, je ferai des notes vocales, tu les apporteras à la fin du podcast.
Ça marche. J'ai deux questions générales que je pose à chaque podcast. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour?
Ce que j'aime le plus, c'est ne pas avoir la variable incertitude dans ma vie. En très longtemps, je me demandais qu'est-ce que je suis censé faire, ce qui me rendra heureux, et l'incertitude, je trouve que c'est le sentiment le plus désagréable qui existe. Moi, je dis, j'arrive pas à prendre des décisions. Parfois, je suis au supermarché, je réfléchis à ce que je vais bouffer le soir, je reste vraiment une heure et demie. Et ça me bouffe de pas savoir, de pas. Et donc, du coup, depuis que je suis du stand-up, j'ai plus cette variable. Okay. Je sais que même si ça marche pas, même si je gagne pas bien ma vie, j'ai plus cette variable là et c'était tellement le truc le plus désagréable qui existait que voilà, c'est ce qui me plaît le plus, de plus avoir cette variable d'incertitude. Et ce qui me plaît le moins, je pense, c'est quand même la solitude. C'est un métier qui est très solitaire. Moi, je suis en autoprod aussi, je pense que ça joue. Mes journées, bah moi, je travaille surtout le vrai travail effectif en dehors de l'écriture, du montage, tout ça, c'est plutôt du 19h 1h du matin et les week-ends. Mm-hmm. Donc je vois beaucoup moins mes potes en journée, bah, putain, jusqu'à 19h. J'ai pas tous les jours du montage à faire et parfois ça peut être très très long. Mm-hmm. Donc ouais, là depuis un an la solitude devient un peu pesante à ce niveau là. Okay. C'est peut-être ce qui me plaît le moins.
Ouais, c'est ce que je peux comprendre.
Après, tu sais, il suffirait de, je sais pas moi, enfin de demain, j'ai une connerie. Je sais pas, je trouve une nana, je me fous en couple, truc comme ça. Ça peut être un équilibre qui, voilà, qui fait que tout de suite la solitude du métier devient vachement plus supportable. Mais c'est juste la double solitude personnelle et professionnelle et je la trouve un peu lourde.
Ouais. Ouais, je peux comprendre. Moi, c'est vraiment un truc que je suis ultra reconnaissant pour ma copine, c'est quand j'ai fini une scène, je rentre à la maison, peu importe qu'elle soit bien passée ou pas, il y a quelqu'un là.
Ouais.
Et ça, c'est...
C'est pas un appel à l'aide effectif, voilà, je tiens à le dire, mais c'est... Les phases où l'humour se passe bien, ça te remplit. Tu rentres chez toi, j'ai fait mon truc, les gens m'ont regardé, je suis heureux, je peux dormir et tout. Les fois, c'est mal passé, tu rentres, t'affrontes ton lit et tout, t'es là, putain, bon. J'aimerais bien avoir un petit soutien moral de temps en temps, quoi.
Ouais, je comprends tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière ?
De pas céder aux sirènes de la précipitation ou de plein de trucs. Je suis dans une logique de long terme. Je me suis vraiment construit sur une logique de long terme. J'ai fait beaucoup de choix. Le fait de tester beaucoup, c'est clairement un truc qui me dessert à court terme, mais qui me servira à long terme. Mm-hmm. Donc voilà, j'espère rester là-dessus. Pas céder à une certaine forme de seum, de voir tous les copains et commencer à y arriver et tout. J'espère ne pas céder à ça. Continuer à bosser vraiment pour... Je préfère percer dans 10 ans et être là 30 ans que percer dans 2 ans et être là 4 ans, quoi. Donc, continue à progresser tranquillement et à m'écouter. Et si jamais demain, ça me rend plus heureux, j'espère que je serai capable de dire j'arrête.
Ben, je te le souhaite.
Merci.
Maintenant, on va passer au name dropping. Mm-hmm. Je vais te demander donc ici, à chaque fois, de me donner un humoriste. Donc, une seule personne, homme, femme, québécois, argentin, suisse, serbo-croate, ce que tu veux, mais une seule personne à chaque fois.
Ok. Et pas de justification derrière, un nom.
Tu peux justifier si tu veux.
Ok.
Mais tu dois te limiter à une seule personne.
Ok, très bien.
L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré.
Le plus sympa que j'ai rencontré, je vais dire William Pillet. C'est une crème, c'est vraiment un des plus gentils, quoi. Et c'est un truc qui me pousse d'autant plus à vouloir le voir réussir, quoi. Ça ferait du bien un peu d'avoir des gentils. Là-haut. Il y en a plein.
Il y en a plein.
Il en faut d'autres.
C'est une des raisons qui me fait pousser InnoJP aussi. Je trouve qu'il est incroyable. Mais il est tellement gentil.
J'aurais pu le dire.
Oui, aussi. Mais il a déjà pas mal été cité dedans. Yacine est en top du classement, clairement.
Ouais. Il peut avoir le même problème, Ino et William, c'est parfois trop gentil. Ouais, c'est là où j'ai cette chance-là d'avoir cette capacité à switcher en non. Je pense que ça sert pour le métier, à un moment donné. C'est dur, hein, mais c'est dur à dire, mais je pense qu'il faut savoir dire. Okay. Ça va être méchant parfois.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus ?
Je vais remettre Jim Carrey. On a déjà parlé au début, mais vu que c'est celui qui est là depuis le début, c'est le seul qui m'a guidé et tout. Et puis même la carrière qu'il a menée après, le fait de passer à la peinture, le fait de toujours rester son livre, ses mémoires floues, une espèce de fausse biographie, c'est dingo. Enfin, merci, c'est Juliette Follin qui m'a fait découvrir d'ailleurs.
Okay.
On l'embrasse. Donc Jim Carrey.
On embrasse Jim aussi.
Oui, ah oui.
L'humoriste qui pour toi écrit le mieux.
Sike, c'est vraiment la... C'est le plus dur, c'est la simplicité. Et pour moi, c'est vraiment celui, il a une manière de... Ça paraît tellement simple quand tu l'écoutes. Ça paraît tellement simple. Et c'est tellement... Il y a tellement tout dedans. C'est cliché de dire que c'est le meilleur, mais en même temps, il a... Ouais, Sike.
Ok.
Sike. La simplicité dans l'écriture. Simplicité.
L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux.
Peut-être à Caster.
Oh, oui.
Peut-être à Caster, il a une manière déjà le jeu se passe par assumer ce que tu fais. Il assume sa débilité et il joue. Enfin, il est extrêmement juste dans ses intentions, ses intonations. Il est toujours surprenant, très très fort. Et puis, un Bélousse, forcément, voilà, joue énormément aussi et très bien. Quoi.
C'est marrant parce que c'est Haroun qui l'a recommandé aussi, James et Caster.
Ah ouais?
Ouais, incroyable. Un humoriste impressionnant. C'est juste le gars, il faut juste pas le lâcher une seule seconde, quoi. Sinon tu es perdu.
Ouais. Et puis alors juste un truc, c'est que à Caster, il a 4 spectacles sur Netflix, ça s'appelle Répertoire. Et c'est des heures où il est un peu très goofy, très un peu je suis hyper maladroit. C'est le mec, tu dis putain, mais ça c'est un peu le copain un peu relou qui est là, qui a sorti la théorie. Il a sorti un spectacle il y a 3 ans, donc 99, Cold Lasagna, Hate Myself. Et il commence par 3 quarts d'heure où il arrive, tenu limite loubar et tout, et puis vénère, tu vois. Genre bah bah bah, et ça j'aime pas, et ça. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une claque dans le sens où, tu sais, moi je pose souvent la question, putain, bah quoi je. C'est quoi mon style, machin. En vrai, quand t'es toi-même, tu peux passer du mec complètement candide, naïf, à ce mec qui insulte tout le monde. Et il y a une logique, il y a une cohérence de ouf, tu vois. Mm-hmm. Je trouve que c'est un super exemple à ce niveau-là.
Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas et que t'as découvert, soit quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu avec un niveau de dingue.
Un humoriste qui m'a surpris dernièrement.
En mal? non, un humoriste qui m'a surpris. Attends, je réfléchis un petit peu. Je vais pas citer de nom, mais en tout cas sur la scène parisienne, il y en a 4-5 comme ça où effectivement je me rends compte que j'ai pas jugé trop vite, mais y a des gens qui arrivent à. Je trouve ça passionnant, moi ça me passionne ce métier, l'évolution des gens, comment ils débloquent des choses. Il y en a 4-5, c'est vrai qu'au début je me suis dit bon, bah, pff, ça, voilà, je vois pas où ça peut aller, et par des petits chemins un peu détournés, et voilà, je vais garder anonyme pour cette catégorie, mais vraiment trop intéressante, ces gens qui trouvent des solutions. Et à l'inverse, ceux qui trouvent les, entre guillemets, les mauvaises, mais après une carrière c'est long, tu peux trouver les mauvaises avant de trouver les bonnes, quoi, donc rien n'est définitif. Quoi. Et toi, bah du coup tu vas répondre cette fois-ci.
Un humoriste qui m'a surpris dernièrement, je vais dire un Belge qui s'appelle Lorenzo Mancini.
Ok.
À chaque fois que je le vois, je le trouve super fort.
Ok.
Il est impressionnant, chaque fois il me surprend en fait. Donc celui qui m'a surpris dernièrement, c'est lui.
Et bah parfait, j'irai voir.
Est vraiment cool, il sort son spectacle, il commence à tourner sa première heure qui s'appelle Origami. Maintenant je vais te demander de choisir entre deux humoristes.
Terrible, parce que je t'ai dit quand même que ma hantise c'est de faire des choix, de prendre des décisions, ça risque d'être compliqué.
Ça va être compliqué d'être centriste là-dedans parce que tu peux pas. Donc je te demande de choisir entre deux humoristes, l'avenir lequel des deux te fait le plus rire. Donc on est sur le terme, sur le pourcentage de rire.
D'accord, ok, même mental, ok.
Entre Louis C.K. et Bill Burr.
T'es un monstre. Sike, je vais prendre Sike. Burr, c'est le. Pour moi, c'est les deux meilleurs, mais bon, c'est. Ouais. Sike, c'est. Il a son spectacle, il a sorti un spectacle, je crois que c'était. Il y a 2 specials ou 3. Il a juste une séquence où il dit. Pardon, je t'ai pas censé expliquer.
Non, si tu peux expliquer.
Une séquence où il rentre dans un magasin de souvenirs. Mm-hmm. Et en fait, il fait un bruit, il fait. Cling-a-ling-ling, juste comme ça. Je crois que ce bruit. J'ai eu un fou rire sur un bruit, c'est sur un onomatopée. Je l'ai repassé 100 fois. Et rien que là, je me suis dit, ça c'est du génie. Juste avec un onomatopée. Mais t'as tout le souvenir. T'as tout. Tout est là-dedans. Sike.
Entre Rowan Atkinson et Jim Carrey.
Atkinson.
Ooh.
Ouais, parce que Carrey, enfin, il y a le côté, il y a toute la variable émotionnelle où il m'émeut, où il me parle, où il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Donc, ce qui fait que Jim Carrey est plus une référence, mais Atkinson, les Mr. Bean, mais surtout son spectacle sur YouTube, là où il fait sketch Fatal Beatings, son sketch Fatal Beatings, pour moi, c'est les 3 minutes les plus drôles jamais écrites et jouées.
Mais j'adore Toby quand il fait le diable. C'est Toby, je crois que c'est Toby de Davos.
C'est Toby.
Ouais, j'adore ce sketch. Incroyable. L'homme invisible aussi.
Mais c'est une drôlerie. C'est incroyable. Allez voir Fatal Beatings. Ça, vraiment, si je peux vous recommander un truc de ce podcast, c'est 3 minutes, il faut parler un petit peu anglais, mais vu que c'est anglais, ça parle lentement, il y a voilà, c'est, normalement ça va, mais c'est génial. Quoi.
Entre François Rollin et Alexandre Astier.
Rollin, Astier, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un mec qui provoque pour moi des. Tu vois, c'est pas du rire efficace, c'est pas du rire fou rire, okay. Pour moi, Astier. Astier, il y a ce. Rollin, il y a vraiment des trucs où. Ouais, je me marre. Rollin, Henri Rollin.
Ok.
Mais les deux sont géniaux.
Entre Charles Nouveau et Haroun.
Alors, je vais dire Haroun simplement parce que j'ai quasiment jamais vu Charles Nouveau.
Ok.
J'ai quasiment jamais vu sur scène, donc je vais dire Haroun. Mais Haroun, moi j'adore quand il sort de Haroun. Tu vois ?
Ok.
C'est-à-dire que tout le monde l'aime beaucoup pour ses vannes politiques, intelligentes, très posées. Moi j'adore quand il sort de ça. J'adore quand dans son premier spectacle il se transforme en dinosaure et qu'il va dans le geste. Quand
il fait le requin.
Oui, voilà. Premier spectacle quand il fait ça. Dans le dernier spectacle quand il devient méchant. Voilà, moi j'aime surtout Haroun quand il sort de Haroun.
Ok. Entre Baptiste Le Caplain et Blanche Gardin.
Baptiste Le Caplain. Okay. Ah oui, non mais moi Blanche est ma préférée en France, je trouve que c'est la meilleure, mais je me marre 10 fois plus devant Le Caplain. Largement, ouais.
T'as mal.
Quoique, tu vois, par exemple, Bonne Nuit Blanche, j'avais pas beaucoup ri au premier visionnage, et au deuxième, je suis vraiment marré.
Ok.
Ça a mis du temps un petit peu, mais par contre, c'est la plus forte.
Oui.
Pour moi, en France, elle a. T'as Blanche dans les filles, t'as Mustapha dans les mecs. Et en termes de pur vraiment stand-up, je maîtrise. Bon, ils sont. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les coucous étant les autres humoristes.
Les coucous étant les autres humoristes. J'aime bien. Entre Morgane Cadignan et Louis Chappelle.
Peut-être Louis, parce qu'il a quelque chose de plus. Je veux dire, j'espère que Morgane écoute pas le podcast. Non, mais j'adore les deux. J'adore vraiment les deux. Peut-être que Louis, c'est plus un rire plus instinctif. Et Morgane, peut-être un rire plus. Ah ouais. Enfin, tu vois. Mm-hmm. Mais je trouve les deux très très forts et je souhaite vraiment aux deux d'aller loin parce que c'est. Ils écrivent tous les deux bien, ils sont tous les deux forts en jeu. Moi, voilà, c'est. Si je devais sortir 5-10 noms demain, genre, j'espère qu'eux, enfin, ils seraient dedans, quoi. Mais ils ont pas besoin de moi. Non, ah, putain, ils perdent très bien sans moi.
Ça se passe bien, ça se passe bien. Louis, j'ai déjà eu dans le podcast, et Morgan, qui devrait bientôt être dans le podcast, j'espère. On est en train de chercher des dates. Et dernier choix, entre William Pillet et Pierre Metzger.
William, moi, Pierre m'en voudra pas. Pierre, c'est celui qui me fait le plus marrer hors scène.
Ok.
On se marre absolument tout le temps, donc vu que c'est celui qui il y a déjà la palme de celui qui me fait marrer hors scène, il acceptera sans problème que je laisse la palme de la scène à William Pillet. William Pillet, c'est scandaleux qu'il soit pas plus. Putain, mais merde quoi. Moi, parfois je me dis, j'ai envie de percer pour faire percer les autres, tu vois.
Ok, oui.
Genre juste pour réparer des injustices. J'ai pas de somme ou de compétition vis-à-vis des autres par rapport à moi, mais je l'ai par rapport. Enfin, comment dire. J'ai pas de putain pourquoi lui il est pas que pourquoi moi je perce pas alors que lui j'ai pas ça vis-à-vis de moi mais je l'ai pour les autres. Alors, parfois je vais dire putain pourquoi lui alors que William tu vois.
Ok oui.
Moi c'est pas possible, je veux réparer des injustices, je veux monter des Monty Python, je veux faire des collectifs où les gens que je trouve forts et singuliers ils soient mis en avant quoi.
Ok oui, je comprends ça. Mais je crois que c'est vraiment un truc que j'ai voulu faire avec le podcast aussi, de quelqu'un qui me fait trop rire mais pourquoi tout le monde le connaît pas. J'ai envie que plus de gens le connaissent, donc s'il y en a. C'est pour ça que vraiment, si un humoriste que vous avez découvert dans le podcast, dites-le moi, c'est le truc qui me fait le plus plaisir avec ce podcast. Voilà.
Mais c'est trop cool que tu le fasses. Enfin, je dis merci à toi pour l'invitation et merci pour. C'est trop cool de faire ces formats qui nous permettent de nous exprimer, pas de parler de nous, mais ouais, d'exprimer un peu notre point de vue, tu vois.
Bah ouais.
Enfin, ça nous fait aussi un peu de promo, enfin, merci pour ça, quoi.
Bah, avec grand plaisir.
C'est très désintéressé, je trouve ça très chouette.
Après, je suis content quand je vois les écoutes. Tu vois, ça nourrit aussi.
Bon, on sent que t'es passionné, quoi.
Ah, mais moi j'adore ça. En fait, j'ai juste trouvé un moyen de faire ce que je veux faire avec les gens, mais j'ai un prétexte avec le micro, tu vois. Mais je pourrais juste faire ça avec des humoristes et j'aimerais trop pouvoir le faire, en fait. Juste aller voir des humoristes et faire on peut parler d'humour pendant 2 heures, s'il te plaît. Oui, ok, cool. Tu vois, mais là, j'ai juste trouvé un moyen de le faire, c'est que j'ai un micro entre nous deux, quoi, tu vois. Et il y a une toute dernière question avec laquelle je termine tous les podcasts, c'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode ?
Adrien Montowski.
Ok.
C'est un mec dont j'ai pas parlé, que je trouve hyper drôle, hyper sympa. Et déjà, je pense que ce serait un bon client, je pense qu'il a des choses à dire, et puis je pense que tu te marrerais beaucoup avec lui pendant le podcast. On a beaucoup parlé, t'as pas beaucoup rigolé parce que j'ai pas fait beaucoup de blagues, parce que dès que je parle, je deviens très sérieux. Adrien, il maintiendrait une conversation légère. Et fluide tout du long, très fort à ça.
Après, il n'y a pas de souci parce que dans le podcast, c'est vraiment revenir sur ton parcours, donc que ça soit drôle ou pas, c'est pas un problème du tout. Mais j'ai beaucoup vu passer, mais j'ai jamais vu sur scène. Donc,
il faut le voir.
J'ai hâte de découvrir.
Il reste quelques dates à la petite loge, donc n'hésite pas. Si tu fais un aller-retour sur Paris, c'est le vendredi soir 20h.
Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions parce que j'ai posé toutes les questions que je voulais poser.
C'est vrai.
J'ai dépassé le temps que je t'avais demandé, mais ça, je le fais avec tous les humoristes. Mais ça va, franchement, aujourd'hui, je suis assez content. J'ai dépassé que 16 minutes.
Merci à toi pour l'invite, vraiment. J'étais très content pour échanger avec toi.
Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui m'ont écouté.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.